Tipeee, le financement des héros. Tipeee, le financement des héros. Tipeee, le financement des héros.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule qui n'a absolument pas testé les micros avec Natacha. Natacha, ça va la pêche?
Ça va, merci.
Nous sommes également avec Flavie, la pêche.
Ouais, la pêche.
Et nous sommes également avec Adrien, Cahuzac, la pêche. Et je vous laisse deviner avec ces quatre protagonistes de quoi qu'il va s'agir cette semaine. Il va s'agir de l'appel de Cthulhu, les cinq supplices.
Remarque, pourquoi tu le précises à chaque fois? Tu sais, c'est écrit dans le titre du podcast, sur la page.
Ils n'ont pas deviné, hein, ils savent juste.
Je souris déjà devant l'infinie naïveté d'Adrien. Sache que beaucoup de personnes téléchargent ce podcast via des applications podcastiques.
Qui ne récupèrent pas en métadonnées
le
titre.
Peut-être que ça récupère le titre, effectivement.
Il n'y a pas l'article qui accompagne.
Mais allez, je te propose qu'on refasse un podcast un jour où on ne dise pas le titre et on voit si ça choque des gens ou pas.
C'est mes expériences.
Un peu de R&D, quoi.
Je pense que tu vois, il y a des gens qui laissent filer en fait leur liste d'audio dans le métro, par exemple. Ah, ça pas forcément.
Genre quelqu'un qui a un trajet en métro de 5h30 et qui du coup enchaîne 3 podcasts, quoi.
Ouais, par exemple. Ouais,
il bosse vachement loin de
ses ouais.
Bah, il bosse en Île-de-France.
Et il n'utilise pas les transports en commun qu'il y a dans Vadémécom, quoi.
Par exemple, ouais. Voilà, tout à fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dire aussi le titre de l'épisode ou de ce dont il s'agit, ça permet aussi, tu vois, d'assez rapidement, si tu l'as déjà écouté, de savoir que tu l'as déjà écouté et donc de passer au suivant.
Mais du coup, le fait qu'ils entendent toutes ces discussions absurdes au début, quelque part, ça leur dira aussi si on l'a déjà écouté, non?
Tout à fait. Et là, en plus, je viens de rajouter le son du pied du micro en ressort qui fait des bruits bizarres.
Ah, d'accord.
Pour les mettre un peu
dans l'ambiance. Vous êtes content, hein. Alors, on va parler de Cthulhu.
Cthulhu Choptilé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette campagne, les 5 supplices? C'est une campagne dans laquelle nous jouons des personnages extraordinaires. Rappelons-le, c'est quel personnage, Flavie, tu joues?
Là, je fais la présentation, donc je fais les bruitages.
Et les projecteurs.
Westminster. Anglaise, qui fait meneuse de revue à Paris et qui cherche de l'exotisme et à s'amuser parce que son mari est enfin
calé. On dirait une agence matrimoniale. Marie Westminster cherche érotisme et exotisme.
Et son mari, enfin cané. Et t'es pas loin du compte, hein. Oui, je pense à mon perso.
C'est pour du un taille à tentacule en plus.
Et elle est riche. Elle a du temps.
Elle a du temps. Elle a beaucoup de temps. C'est également le cas de Sybil Crawley.
Tout à fait. Alors moi, j'ai un peu de temps, mais pas tant que ça, puisque je travaille pour mon papounet, chéri. Et donc,
voilà, ça ne fait pas du tout agence matrimoniale.
Ah non. Et puis en plus, je suis mariée, alors bon, voilà. Ouais.
On n'a pas beaucoup vu ton mari, hein.
Bah non, il est resté en Angleterre ou en France, d'ailleurs.
Puis vu qu'on ne fait pas beaucoup de roleplay, t'en as pas beaucoup parlé, hein.
Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, donc je gère des entreprises familiales qui ont un lien un peu d'import-export, on va dire, voilà. Entre la France et la Chine.
Ouais. On ne sait absolument pas ce que tu...
Bon papier, madame.
Alors il faut savoir qu'au cours du dernier scénario, nous avons fait un long voyage en avion qui nous a conduit jusqu'en Mandchourie. On est en train de voyager vers la Chine.
C'est ça.
J'ai oublié de te présenter mon personnage. Moi, je m'appelle Octavius Constantin, je suis juriste international. Voilà, c'est à peu près tout.
Et
je ne sers à rien, surtout pas à me battre. Voilà.
Oui. Et donc, Adrien. Pendant le deuxième podcast, on avait fait quasiment tout le livre 3, c'est-à-dire le voyage jusqu'en Mandchourie.
Ouais.
Il nous manquait la dernière étape qui était Shanghai.
Ouais.
Et donc là, aujourd'hui, on a fini ça.
On a fait Shanghai.
Ça a pris pas mal de temps.
Ouais. Dairen,
Shanghai,
en termes de destination.
Et puis ensuite, la Mandchourie, quoi, le début de la Mandchourie.
Bayou Quan.
Bien joué.
Donc, on va reparler de tout ça. Commençons peut-être par raconter un petit peu ce qui s'est passé à Shanghai. Éventuellement, commençons un petit peu par décrire la fiction. Rapidement, hein. Vraiment.
Il y a Étienne Fiori, aucune parenté avec Patrick, qui gère l'ambassade de Shanghai, et qui fait un gros clin d'œil au personnage de Sybil, genre. On est trop discret. Ah, regarde mon clin d'œil.
On a des trucs à voir entre nous, mais quand tout le monde sera parti, c'est vachement secret, mais il faut que tout le monde entende quand même, parce que sinon, c'est pas intéressant.
Ouais, et c'est vraiment secret cette fois-ci. C'est pas discret, quoi. C'est vraiment. Puisqu'il s'agit du trafic, du padré de.
Comment ça, du trafic? Du commerce.
Du commerce.
J'ai dit que c'était un travail d'import-export. Hein. On est d'accord.
Enfin, nous, on va découvrir qu'il s'agit d'opium en réalité.
Voilà. Tout à fait, opium.
Assez rapidement.
D'ailleurs, le truc rigolo, c'est que le monsieur Fiori en question, Étienne Fiori...
C'est si un PNJ inventé.
Ouais, c'est ça, c'est un PNJ. Alors non, c'est pas un PNJ inventé, c'est un PNJ basé sur un personnage réel. Vous pouvez chercher sur Wikipédia Étienne Fiori, et c'est assez rigolo.
Et non pas King Fury, hein, ça n'a rien
à voir. Ni Rod Fury, biceps. Ni
Kung Fury. Donc, très bien.
Donc, une fois qu'on a réglé nos affaires, que j'ai récupéré les diamants, qu'il a récupéré l'opium, tout
ça... Et qu'on t'a suivi avec beaucoup de maestria, puisque je savais pas me dissimuler, mais j'ai utilisé...
Mais de toute façon, moi, je ne savais pas observer, donc ça, ça posait pas de problème.
Exactement. Et j'ai découvert... qu'à cause de toi, il y avait de l'opium dans le pays.
Que vous aviez endormi cette population à l'aide de cette drogue, vous autres, Européens. Enfin,
et
moi
après,
aussi, je suis Européen, en fait.
Une ou deux petites remises en question. On a continué l'aventure.
Ça, c'est fait.
C'était énorme. C'était absolument génial. Donc, du coup, on a continué l'aventure qui nous a conduit à rencontrer un antiquaire qui nous a conduit
à un autre antiquaire. Attends, on arrive du coup à Dire. Ah ouais.
J'ai dit, on l'a fait courte, la fiction. Hein. Je ne veux pas qu'on s'étende trop longtemps. Non, Flavie, ça te...
On va à Wingenko et le mec de Wingenko, qui est un antiquaire, nous dit « Moi, mes antiquités, je les chope de Kangdai, qui est à l'hôtel Yamato à Dairen. » Et ça tombe bien, Dairen est notre prochaine étape.
Alors, pas forcément. On aurait pu passer par King Arthur. Et on choisit... Port Arthur.
Pourquoi King Arthur, c'est...
Ah, c'est pas un mélange avec King's Landing, peut-être ou...
Peut-être, je sais pas.
Le roi atterrit.
Port Arthur. On avait le choix, en fait. Et on choisit d'aller directement à Dairen, évidemment, sans se renseigner au préalable sur ce que c'est Dairen. Et bon, on se plante un peu, en fait, parce que Dairen, c'est vraiment une ville occupée par le gouvernement chinois, par l'armée japonaise, qui mène vraiment la ville d'une main de fer, qui vraiment a pris le contrôle total de tous les individus. Ouais.
Depuis 1905-1906, suite à la guerre avec la Russie, ça c'est des faits historiques, hein. Le Japon a le droit, je sais pas comment on dit en termes
d'usufruit,
sur une toute petite portion au sud de la Mandchourie, ainsi que sur la ligne de chemin de fer de la compagnie South Railway Mandchouria, un truc comme ça.
Exactement. Et ils mènent vraiment, ils dominent cette région d'une main de fer. Ils sont vraiment,
ils patrouillent dans la rue.
Voilà, ils patrouillent dans la rue, ils nous demandent nos papiers en perte.
Des automitrailleuses, des chars, des navires de guerre.
Mais bon, on va faire rapidement le truc pour rentrer plus dans les détails après.
Ouais, très
bien. On rencontre du coup Kang Dai qui nous dit en gros, je sais pas grand chose, mais ce cargo là-bas que vous cherchez, il est certainement pris par des Japonais.
Alors oui, parce que...
Ouais, là, c'est un raccourci qui fait que personne ne comprend.
Exactement, je pense aussi.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à Shanghai, on a été visiter donc, la maison abandonnée de Longsdale, qui est le personnage non-joueur qui a fait la quête avant nous-mêmes, finalement, qui a rassemblé les artefacts qui permettent aujourd'hui aux grands méchants de réveiller probablement un des grands anciens de l'univers. Et donc, on est un peu sur la quête, sur la trace de Longsdale pour essayer de découvrir quels sont ces artefacts et leur sens, quel est le sens de cette bataille dans laquelle on arrive un petit peu en retard malgré nous, hein, puisque tous les éléments ont déjà été rassemblés par les PNJ. Et au cours donc de notre visite à Shanghai, on va visiter une maison abandonnée dans laquelle on croise des gens qui nous expliquent que la maison a été pillée. Enfin, on croise des badauds à une reprise en fait par un bateau, un cargo avec sur la cheminée un dessin d'hippocampe verte. Mais bon, ça c'est la première description du dessin. On verra plus tard dans l'histoire que ce motif est en fait plus complexe et qu'il s'agirait plutôt d'un espèce de monstre de la mythologie chinoise. En tout cas, qu'il a l'air un peu plus monstrueux que une simple hippocampe verte. Bref, arrivé à Dairen, on interroge un peu les gens au sujet de tout cela. On redécouvre aussi que tous les gens, en fait, tous les Européens à Dairen sont finalement tous contraints de passer par ce fameux hôtel Yamato, qui est en fait une chaîne d'hôtels. Hein. Les Yamato, c'est des hôtels comme des Formule 1, c'est vraiment une chaîne.
Oui, c'est plutôt des hôtels de luxe quand même.
Mais ce sont des hôtels
Hilton,
de luxe.
Quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, c'est un peu une cage dorée, c'est un peu une prison dorée dans laquelle on est. C'est compliqué de faire des allées et venues, etc. Et donc de mener l'enquête. Mais assez rapidement, la rencontre avec cet antiquaire que l'autre antiquaire de Shanghai nous avait conseillé de voir nous mène jusqu'à
une
demeure.
Une demeure qui était un ancien abri, une ancienne planque des gardiens du dernier sacrilège. qui donc voilà. sont...
Et ça, on le sait pas, nous.
C'est ce qu'il vous a dit. Hein.
On
il
le
vous
suit,
a dit,
hein.
En suivant le bateau, a priori, pille un repère des gardiens du dernier sacrilège.
Mais donc, moi, sur le coup, en fait, Adrien, j'avais compris que c'était le cargo, pas le petit bateau qui venait décharger. C'est pour ça que j'ai pas tout de suite trouvé intuitif de suivre le petit bateau. Je pensais qu'on allait. C'est pour ça que j'avais, à un moment donné, j'ai dit, on va prendre une plus grosse embarcation, parce que moi, dans l'idée, c'était, on va suivre le gros bateau.
Plus gros bateau.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà. Et donc on arrive sur un des sites des gardiens, et ouais, là on renoue avec les gardiens.
Juste
en fait.
Une chose, on a aussi eu la visite du monsieur qui nous donne des.
Le marchand ambulant.
Des marchands ambulants, c'est-à-dire l'homme à la base jour sur la tête.
Ouais.
Voilà, et qui nous laisse des fortune cookies.
Des fortune cookies. Et dans les fortune cookies, on avait plein d'indices trop intéressants.
Mais trop bizarres.
Trop bizarres.
Trop bizarres, très énigmatiques.
Certains qui se contredisent.
Certains qui se contredisent a priori. Qu'on a finalement, je pense, assez bien décollé.
Oui.
Enfin, en tout cas, c'est mon point de
oui,
vue.
Oui, tout à fait.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc,
quand on vérifie si on les a tous
ils sont sur la table,
réalisés.
Oui, ils sont sur la table.
Non, je les ai rangés dans l'enveloppe.
Ok, faut le voir si on peut les retrouver peut-être.
Voilà,
pour,
si, on les a tous, si on les a tous réalisés ou vus se réaliser ou pas, on fera qu'on garde bien de côté ceux qui ne sont pas réalisés.
Et depuis, dans la maison des gardiens, justement, on voit qu'il y a déjà des combats en fait, qui s'y mènent. Hein. On arrive encore une fois un peu en plein milieu d'une lutte interfaction. Et on est sauvé de justesse par les gardiens. Gardiens qui, je le rappelle, nous ont donné la mission principale, qui est de retrouver, avant le grand méchant, un tatoueur.
Et quand Rome dit que c'est la baston, c'est contre... Des gros hommes poissons qui marchent, en gros, on est contre des profonds.
Rapidement, ouais, quand le message du Fortune Cookie nous est donné, méfiez-vous des poissons qui marchent.
C'est des chérennes, c'est ça
Attends,
chérennes.
Moi, je libère une grosse bestiole, sans visage, mais qui me regarde.
Le captif de Daïren. Donc, il se passe plein de choses qui nous mènent, en gros, à la tombe de celui qui nous a donné la mission principale. Donc à Bayou Kwan,
exactement.
Et c'est là donc qu'on va, grâce à l'aide des gardiens qui viennent précédemment nous sauver la vie contre les profonds qu'on a combattus, qu'on va donc ressusciter Gyeonggin.
C'est un bien grand mot. Vous récupérez un cadavre d'un ancien maître des gardiens du dernier sacrilège.
Et on permet à son ombre.
Qui a les yeux cousus, c'est la bouche cousue. Et grâce à un rituel, l'ombre de Gyeonggin revient de l'Empire des Ombres pour animer cette carcasse de peau et d'ossements.
Voilà, c'est ça. Et par ce biais, il peut nous parler.
Exactement.
Et donc nous confirmer qu'on est bien dans la bonne direction, que notre mission est bel et bien de trouver ce tatoueur avant, on rappelle, le vilain Saik Fong Lee, qui est le grand méchant de cette histoire, que je trouve définitivement très classe, et qui donc lui a pour intérêt de rassembler les artefacts que Lonsdale avait rassemblés avant lui, finir un tatouage qui lui permettra de commander, on imagine, un grand ancien. Mais pour l'instant, tout ça reste encore... Il y a une grande partie des choses que je dis là qui sont encore des hypothèses de joueurs.
Oui,
Adrien ne nous a rien confirmé.
On trace un résumé du scénario à gros traits,
voilà,
parce qu'on va
ça.
Rentrer un peu plus dans le détail.
Absolument. Et c'est donc, voilà, une fois Gyeonggin réveillé, il nous redonne encore une autre mission. L'idée est de nous rendre sur une île au loin dont on sait qu'elle est habitée par des gens qui ont la peste. Donc il va y avoir probablement...
Plus qu'habitée, en fait, elle sert de dépotoir. En fait. Les Chinois, ils balancent tous leurs malades, que ce soit de la peste et d'autres choses. Hein.
C'est une île de pestiférés.
L'île de la souffrance.
L'île de la souffrance. Et je crois même que le mot « l'île des pestiférés » est employé dans une aide de jeu, un journal qu'on nous donne.
Et on va en parler. Parce
et on va en parler. Ouais, t'as hâte d'en parler. Ok, fin de la fiction. Voilà, je sais que beaucoup d'auditeurs aiment bien que la fiction soit résumée au départ. Là, on a résumé ça en 10 minutes, je pense que ça va. Donc voilà. Maintenant, quelles sont les scènes marquantes? Première question que j'ai envie de vous poser autour de la table. Vous avez apprécié
J'ai
cette
adoré.
Ouais. Moi aussi, j'ai préféré ça au voyage en avion.
Sans comparaison, j'avais des trucs à faire déjà.
La moitié de la partie, ça fait partie du voyage en avion. Hein. Attention.
Ouais,
Adrien,
vrai.
Ton point de vue de MJ, est-ce que tu as kiffé?
Moi, je me suis beaucoup amusé. Il y a 2-3 moments qu'en tant qu'MJ qui sont assez difficiles, on pourra en reparler. Parce que... c'est du « il doit se passer ça ». Voilà, il doit se passer ça. Mais je vois pas de raison logique que ça ait lieu. Et donc, du coup, ça force des éléments très cinématiques où ensuite, une fois que la cinématique est terminée, on laisse la main au joueur et bon, il se passe quelques trucs. Mais...
En tout cas, moi, de mon point de vue, t'avais le sourire tout le temps, là-bas,
ah ouais,
tout
moi,
le temps.
Je me suis éclaté. Hein.
T'as pas dû t'ennuyer beaucoup parce que je te voyais quand il y avait des moments de pause.
J'en profitais pour feuilleter. Ouais.
Pour feuilleter ton bouquin et donc pour t'étais à l'arrache en train de chercher des infos et compagnie. Je pense que toi, t'as pas vu le temps passer, clairement.
Non, pas du tout, non.
Ouais. Donc ça c'est assez génial. Flavie, quelles sont les scènes marquantes? Pourquoi est-ce que tu trouves définitivement cette partie bien meilleure que la précédente?
Ah déjà, l'arrivée plus claire du fantastique, mais vraiment y être confronté, comme dans le premier scénario en fait, il reste du mystère. Ouais. Et pourtant, on est quand même confronté à des trucs qu'on va combattre, on se met quand même d'un côté... Mais on n'a pas toutes les réponses. Il y a toute cette aura de mystère qui me pousse à aller plus loin. Bon, moi, j'avoue, d'un point de vue personnel, j'ai adoré libérer le captif.
Ouais, c'était vraiment une très, très belle scène, celle-là.
On arrive et en fait, il y a une créature totalement fantastique qui est attachée et sur l'un des fortunes cookies.
Alors voilà, il faut pour comprendre cette scène et pour comprendre pourquoi Fly.
Parce que du coup, j'ai eu un gros dilemme en fait.
Il faut vraiment.
Et j'avoue, j'aime bien les dilemmes.
Alors qu'est-ce
Et dans
se
les
passe
fortunes cookies, on a justement eu deux fortunes cookies qui étaient contradictoires et qui concernaient ça en fait. Le premier fortune cookie dit ne cherche pas Gang Dai et laisse le captif.
Alors Gang Dai, il faut savoir que c'est l'antiquaire que l'on doit rejoindre à Dairen.
Ouais, on vous a donné son contact, on vous a dit allez le voir.
Voilà, c'est l'antiquaire de Shanghai qui nous dit ça. Va voir l'antiquaire de Dairen, il sait plus de choses. Et ce type se nomme Gang Dai.
Et le deuxième, mais cherche Gang Dai et trouve les gardiens.
Alors relis-les tous les deux.
Cherche Gang Dai et trouve les gardiens.
Premier.
Ne cherche pas Gang Dai et laisse le captif.
Et alors, attention à l'interprétation de laisse le captif, c'est vraiment laisse plus loin, complément, le captif. Et c'est
parce qu'on s'est posé la question.
Voilà,
Ça a été un gros sujet de discussion.
Est-ce
que c'est Kang Dai qui est captif et il faut laisser Kang Dai captif?
Laisse le captif.
Ou est-ce que c'est laisser le captif qui est là-bas, quoi?
Voilà, et
alors, l'autre discussion qu'il y a eu, qui était plus problématique, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de tiret entre l'S et le, ça laisse assez peu d'ambiguïté, c'était la question, c'était est-ce que le L et le C sont des lettres
capitales, majuscules.
Ouais. Donc, est-ce que c'est une entité au même titre que l'aveugle qu'on a dû trouver ou que, je sais pas.
Ouais. Mais du coup, quand je me suis retrouvée face à ce truc-là, je me suis dit, ah, c'est un captif. Ça a beau être une bête surnaturelle, je vais pas. C'est mon destin, je vais le libérer, quoi.
La première.
Alors que tout le monde disait non, la libère pas. J'ai si si, et là j'ai pris. On m'a dit ne pas le libérer.
Si, moi j'ai eu un mouvement de pour t'arrêter. Oui, c'est sûr.
J'ai trouvé. Alors moi, à titre personnel, j'avais pas du tout, mais alors du tout, fait le rapprochement entre le captif qui était décrit dans le Fortune Cookie et le captif
et cette
créature qui était en face de nous. Et pourtant, tu avais bien décrit ces liens et tout. Adrien, irréprochable. Il avait bien décrit des liens et compagnie. Et c'est quand vous avez dit, putain, mais c'est lui le captif. Là, il y a eu une sorte d'épiphanie. J'ai vraiment adoré ce moment où on comprend, mais ouais, laisse le captif.
Et c'est ce qui est génial. Et puis, c'est ce qui est génial sur les Fortune Cookies. C'est qu'ils sont très obscurs et qu'au fur et à mesure des scénarios, on va avoir des épiphanies comme ça. Ouais. Et là, c'est la première épiphanie. Je l'ai trouvé trop cool. Et le fait de libérer ce truc et qu'il arrive, je me dis, ah, il commence à. Arrivé vers moi, je me dis, il va me buter en fait. Et au final, non, il s'arrange à 10 cm. C'est un des moments de n'importe quoi où du coup, je sais pas faire. Je lui demande où est Agai Chen, le tatoueur, parce que je flippe.
Ouais, c'était trop bien.
Et en fait, il me tue pas et il va tuer d'autres trucs. Et nous, il nous laisse, quoi. Et j'ai trouvé ça super.
Je pense qu'il nous a bien rendu service et que tu nous as bien rendu service aussi, parce qu'à mon avis, il y aurait eu le double de profond qui nous aurait attendu dans la pièce à côté s'il n'était pas sorti, quoi.
Mais il reste encore cette énigme qui est laisse le captif. Est-ce que ça veut dire laisse-le là? Ou est-ce que ça veut dire libère-le? Parce que.
Ouais, laisse-le vivant.
Laisse-le vivant, libère-le et compagnie.
C'est dans celui de ne cherche pas.
Oui, ne cherche pas Gang Dai et laisse-le captif.
Laisse le captif. Bah, ça veut pas forcément dire de le libérer.
Pour moi, ça veut. Bah non, pour moi, ça veut dire si tu ne le. C'était dans l'idée où si tu ne cherches pas Gang Dai, tu le laisses captif. Tu laisses le captif captif.
Mais dans tous les cas.
Les deux sont pas des conseils, sont des états de fait. C'est soit.
Oui, pour moi, c'est
pas Gang Dai et du coup, vous allez laisser le captif.
Ouais.
Soit vous allez voir Gang Dai et
on trouve les gardiens.
Et ce qui est intéressant, c'est que plus tard dans le scénario, on se rend compte que ce captif, tout le monde s'en servait pour prendre une sorte de matière, de graisse, pour pouvoir aller dans le monde des ombres.
J'allais dire l'ombre monde, putain.
Cette graisse, pour rappel, c'est celle qui était utilisée dans les bougies, qui était utilisée par Sai Fongli pour animer toutes ces créatures d'ombre.
Absolument. Ouais.
C'était la même odeur que vous aviez sentie.
Oui, et du coup, le coup de bol, c'est que je prends le vase...
Et qui nous servait aussi de cercle... Pardon, excuse-moi, Flay, je t'ai interrompu, mais qui nous servait aussi de cercle de protection.
Ça, c'était autre chose, ça.
Ah d'accord, moi j'avais fait le rapprochement.
Parce que moi je pensais que c'était
alors,
ça. Qui
mais alors du coup, en vous écoutant, j'ai encore... En fait, je reviens sur mon interprétation de c'est un état de fait. En fait, peut-être qu'il aurait fallu le laisser captif, justement, pour qu'on puisse continuer à se servir de cette graisse qu'il donne.
Mais du coup, moi j'ai pris le vase. Au pire, ça veut juste dire que plus personne ne pourra aller dans le monde des ombres. C'est peut-être pas une mauvaise idée.
Bon, enfin.
En tout cas, on a ce qu'il faut, tu vois. On a
ouais.
Ce
ouais.
Oui, parce que le vase dont il parle, c'est à côté du captif. Il y a des étagères avec des instruments de chirurgicaux, de quoi en fait l'entailler, le découper, faire suinter ses fluides, les prélever. Et il y a tout un vase qui contient une grande quantité de sa graisse. Quoi.
Alors ce que je trouve extraordinaire avec cette scène, c'est que d'abord elle est introduite par les Fortune Cookies qui nous font nous poser des tas de questions.
Ouais, ouais.
Puis ensuite, les Fortune Cookies nous permettent d'avoir une espèce d'épiphanie vis-à-vis de cette créature. Puis ensuite, nous permet d'avoir un dilemme vis-à-vis de ce qu'il faut faire de cette créature. Et maintenant, le fait d'avoir libéré cette créature nous laisse en plus une formidable promesse qui est-ce que le fait de l'avoir libérée, ça va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un deus ex machina, que cette créature va intervenir pour nous sauver, nous libérer. Est-ce que, tu vois, je trouve que c'est vraiment...
Ça donne une promesse, ouais, c'est
ouais,
génial.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a tout là. On a l'élément de scénario qui est vraiment bien foutu et qui fait que là, ça ouvre à fond. Et peu importe si c'est pas le cas au final... Ça...
Ah oui, bien sûr. Ne serait-ce que parce que vous cogitez dessus, c'est suffisant.
Ouais. Exactement.
Ouais, c'est une belle scène, quoi.
C'était une très belle scène. Ouais.
Bref, donc c'est ça que j'ai vraiment trouvé très très chouette dans cette scène. Plus autre chose aussi qu'on n'a pas précisé mais qui oui. est essentiel.
C'est qu'avant de le rencontrer, quand vous arrivez là-bas, vous retrouvez à nouveau nez à nez avec une arcane des cinq supplices.
Oui, c'est vrai.
Il y a le rituel.
Je perds un peu de San, oui. Beaucoup.
Exactement, il y a le rituel qui est en place au milieu. Et donc, nous, on a déjà assisté à ce rituel au cours du premier scénar, et donc on le reconnaît. On voit à nouveau les cinq éléments chinois qui sont convenablement disposés, l'eau, la terre, le métal, le bois et le feu, et avec les suppliciés, etc. Enfin, tout est nickel. Ce qui nous rappelle aussi, là, c'est une sorte de rappel du premier scénario. Et quand tu dis, Flavie, que ce scénario-là, enfin, en tout cas, cette partie-là, cette séance de jeu-là, est très en adéquation avec le premier, il y a aussi des tas d'éléments scénaristiques qu'on
ouais.
retrouve. Des
ah oui, mais ça fait du bien.
Les motifs qui reviennent.
Et y compris dans le dépaysement.
Oui.
Lié,
le premier scénario, vous étiez dans le quartier chinois, et là, vous êtes dans le grand quartier chinois, en fait, en Chine, quoi, directement.
Ouais. Ouais, non, ça, c'est assez fort. Autre élément très important de cette scène et qui la rend vraiment, mon avis, sublime, c'est les éléments d'ambiance qu'Adrien a mis tout au long de cette partie. Adrien, t'as été impérial. Le mot est choisi judicieusement, c'est parce qu'en fait, déjà, pour à l'arrivée, j'ai trouvé que t'avais joué les autorités japonaises.
Avec brio.
Avec brio, c'était génial. Alors,
tu disais qu'il y avait des choses dans le
livre.
Dans
le bouquin, il guide bien sur comment jouer.
C'est génial.
L'arrivée, c'est qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous découvrez aussi à la toute fin du scénario, à la toute fin du scénario, enfin là où on est arrivé, c'est plus ou moins aux deux tiers du livre 4, se déclenche un élément historique qui est ce qu'on appelle l'événement de Mukden, je crois si je ne dis pas de bêtises, qui est qu'en gros, les Japonais sabotent leur propre ligne de train, accusent les Chinois et envahissent la Mandchourie.
Ouais, d'accord.
Et donc...
Il n'y a pas un truc comme ça dans Tintin aussi ?
Bien sûr.
Ouais.
Oui, bien sûr, dans Tintin, quand il va en Chine et qu'il y a les Japonais dépeints de façon avec leurs grandes dents hyper racisées et compagnie, c'est ça. Et donc là, cet événement, c'est ça. Et donc du coup, dans les jours précédents, le Japon est paranoïaque.
Donc en plus, on arrive au moment
où ils sont fous.
Ils voient des complots chinois partout.
Il y a des mouvements de troupes dans tous les sens. Ils voient des complots, ils sont hyper paranoïaques. Donc quand vous arrivez, les Japonais... ne veulent laisser passer aucun espion, être vraiment hyper, hyper strict sur ce qui rentre, qu'est-ce qu'ils vont voir, etc. Et donc, il faut que je retrouve le bouquin, en fait, ça va être plus simple.
Sachant que nous sommes des espions.
Et oui.
Puisque nous sommes avec Georges Guédon, qui est un diplomate français, dont le but est clairement de comprendre les intérêts japonais dans la région. Et, ça,
et on va le découvrir aussi dans le scénario.
On l'a redécouvert.
Oui, parce qu'il a une autre... On savait que c'était plus ou moins un espion, mais on découvre que sa mission, c'est de se renseigner sur un chercheur qui fait des recherches en épidémiologie. Voilà. Et un des trucs qui est génial, alors, on parle des Fortune Cookies, mais il y a aussi un truc, quand on arrive du coup en Mandchourie, c'est qu'on a une énorme aide de jeu que j'ai trouvé fantastique, qui est un journal.
Ouais, c'est génial.
Un vrai journal. Donc à un moment, pendant le scénar, on s'est juste arrêté. Et moi, à un moment, j'ai eu un moment vraiment où j'ai kiffé. Je t'ai regardé, Natacha, et tu lisais le journal avec ton thé.
Et très british.
C'était tellement bien, quoi. Tu lisais ton journal avec ton thé et comme ça nous met dedans, quoi. On arrive, on a le vrai truc. Et puis, il y a plein d'indices dedans qu'on commence en plus à avoir se réaliser. On ne peut pas s'empêcher de chercher les indices comme dans les Fortune Cookies. On trouve où ça va nous mener, quoi.
Et comme il est en format journal, ça invite vraiment à avoir cette attitude du lecteur attablé.
Dedans, il y a plein d'infos, des annonces de ce qui va être à venir, des choses qui sont juste du contexte historique, qui viennent expliquer un petit peu.
Mais on nous annonce les intérêts épidémiologiques que justement ce fameux général pourrait avoir avec les pestiférés qui sont gérés et envoyés sur une île où a priori il faudra qu'on aille nous aussi.
Ouais. Alors je vais juste rembobiner très légèrement donc sur l'arrivée au Japon, l'arrivée en Mandchourie.
Moi, juste pour dire qu'à ce moment-là, la manière dont tu l'as joué, tu avais en plus une aide de jeu.
Oui, mais c'est ce que je vais dire. Ouais.
Ah bah très bien.
Quand vous arrivez en Chine, donc en Chine conquise par les Japonais en Mandchourie, au sud de la Mandchourie, les conseils OMJ sont commencer par décrire l'arrivée à l'aéroport. Donc le fait que depuis l'avion, vous voyez des postes de tir, des patrouilles, des chars, des véhicules blindés.
Tu l'as très bien fait.
Ça permet de poser l'ambiance. En fait. C'est que quand vous arrivez, ok, on n'est pas dans n'importe quel aéroport. Déjà, ça pose une ambiance. Et ensuite, il y a une section qui s'appelle l'interrogatoire des investigateurs. Et donc là, c'est dit, bon, il y a une petite description du bâtiment, etc. Et un fonctionnaire remet à chaque investigateur un formulaire d'entrée dans le territoire. Donc j'avais fait des photocopies avant la partie, j'en ai remis un à chaque joueur. Et il est marqué de suite, un peu en suite. Donc après plus ou moins longue minute, un officier japonais fait un geste de la main à l'un des investigateurs qui est conduit dans une petite pièce pour un interrogatoire. Avec un mépris certain, l'officier lance ses répliques d'un ton sec. Il n'hésite pas à reposer plusieurs fois les mêmes questions, par distraction, pour noter des compléments d'information ou pour vérifier que l'investigateur reste cohérent.
Voilà.
Donc c'est des questions du genre, papier, comment vous appelez, d'où venez-vous, vous venir seul, pourquoi.
Et ce qui est génial, c'est qu'en tant que joueur, on ne sait pas forcément tous les détails de son personnage. On ne sait pas quelle est sa date de naissance, quel est son numéro de passeport. Il y a des questions genre, quand est-ce qu'on va repartir ? En tant que PJ d'un jeu de rôle, c'est très difficile d'évaluer combien de temps on va rester dans la ville. Et donc, du coup, toutes ces questions qui sont en fait... auxquelles le joueur ne peut pas répondre, finalement, du moins sereinement, te mettent en synesthésie avec ton personnage, qui, lui, est un espion et qui a peur de noter des choses. Et quand on va te reposer la question... Le fait que tu bafouilles en disant ton numéro de passeport parce que t'as pas mis tout simplement ton numéro de téléphone portable comme moi je l'avais fait, eh bien ça fait que du coup on te suspecte, etc. Et ça crée une oppression sur le joueur qui est en synesthésie complète avec l'oppression que son personnage pourrait ressentir par l'occupant japonais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Enfin, c'est top. Et alors, t'oublies de dire un dernier truc, je rembobine encore un petit peu.
Ouais.
C'est qu'en nous laissant le choix entre débarquer à Port Arthur et à Dairen, quand on arrive à Dairen et qu'on se retrouve dans cette situation, on s'en veut en plus.
Ah bah oui, ouais, là
c'est qu'en plus, on se sent responsable de cette situation. Ouais. On se dit, putain, merde, j'aurais dû aller à Port Arthur. Et du coup, en plus, tu as une espèce comme ça de sentiment latent de, putain, et si seulement j'avais pas fait ça. Et du coup, tu te sens...
Ce qui était encore plus rigolo, c'est que vous débarquez avec un prisonnier qui fait partie de la secte de Sai Fongli.
Oui.
Vous débarquez avec une chinoise, alors ok, vous êtes en Chine japonaise, mais comment ils vont réagir avec elle, tu vois, c'est pas gagné. Débarquez avec le personnage de...
On est tous armés.
Ouais, tous armés, le personnage de Natasha qui a des fortunes en diamants sur elle.
Elle a des diamants dans le sac. Ça, c'est quand même assez fort, ouais. On a vraiment, c'est écrit sur notre gueule.
Et par le groupe en plus, donc on sait pas ce qui se passe.
C'est ça, et lorsque vous remplissez les formulaires, alors c'est pas dit tel quel, mais en gros... Ce qui est dit, c'est que les officiers japonais sont autoritaires, disciplinés, inflexibles. Et donc, du coup, quand les joueurs remplissent leurs feuilles, si jamais ils essayent de discuter entre eux, en tant qu'MJ, j'interviens, vous pas parler !
Ouais. Alors, petit détail aussi qui est hyper important pour l'ambiance, c'est que quand tu nous fais les gardes japonais, tu précises que derrière eux, il y a un commandant. Et lui, il est beaucoup plus poli en apparence avec nous. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, là où les gardes vont être très sévères et nous dire « Oui, taisez-vous, silence, écrivez, machin truc », lui dit, avec un grand sourire, « Écrivez, écrivez, ne vous en faites pas, sous-entendu. » Il y a cette espèce de jeu de méchant flic, bon flic, qui en plus, je trouve, renforce la crédibilité en fait de la situation. Nous, récemment, avec Flavie, on a regardé un film qui s'appelle Le Dernier Empereur, parce qu'on savait que vous alliez venir ce week-end pour faire la partie. On s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa de se replonger dans ce contexte historique en regardant un film qui se passe peu de temps après, je crois, tout ça. Et vraiment, il y a en plus des scènes d'interrogatoire comme ça. Et c'était vraiment, tu l'as fait. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Flay, mais...
Ah, c'était cool. C'était très, très bien.
Et le bouquin invite vraiment à faire ça, parce qu'en fait, juste après, donc à la fin de toute la séance aéroport, il est écrit donc que... donc, ça aussi, c'est marrant, c'est qu'ils sont obligés de résider à l'hôtel Yamato. Donc, eux, les joueurs ont peut-être prévu autre chose, ont peut-être pensé à des trucs. Dans tous les cas, ils devront résider à l'hôtel Yamato. Et à la fin, l'officier, qui a été désagréable au possible tout du long, il va leur faire avec un grand sourire... Bienvenue à Dairen, du genre bienvenue en enfer, quoi. Ouais. Et derrière, donc un petit paragraphe, plus tard, le gardien peut faire intervenir les services de renseignement japonais pour contrôler les informations fournies par les étrangers. L'investigateur doit remplir à nouveau le même document qui sera comparé au précédent pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence. Et ça, en fait, ça dit au MJ, soyez violent là-dessus, quoi. Ouais. Et donc ça, même si ça te donne pas tous les éléments de recette, en tout cas, ça montre clairement du doigt. Taper dessus et insister, quoi.
Et en plus, ce qui est dingue, c'est que ça fait cet élément de matériel, ouais. Ça n'en fait pas un détail. Parce qu'en fait, on pourrait croire, on se dit, ah, il nous fait... Puis ça va être tout. Mais en fait, non, il va servir après. C'est ça qui est fort, quoi. Ils arrivent à chaque fois à retrouver une utilisation.
Et d'ailleurs, ils sont revenus et Natacha s'était un petit peu trompée sur deux, trois trucs. moi aussi. Et j'avais oublié de remplir deux trucs.
Oui.
Et du coup, on a fini au poste.
Ouais, Natacha, c'était trompé de date de naissance.
Et sur ma propre date de naissance, en plus. Ben ouais, parce que bêtement, j'avais pas pris un truc mémoté ethnique, alors que sur la date de naissance de mon époux, j'avais pris la date de naissance des Bugs, comme ça j'étais sûre de m'en rappeler.
Donc ça, c'est une première scène c'est deux premières scènes, en fait, ce qu'on a décrit à la fois le captif. Le captif, ce sera après cette scène-là. Mais oui, moi, j'ai trouvé que c'était une scène d'introduction, en fait. Avant, Shanghai, j'ai pas trop aimé, moi, cet épisode. J'ai trouvé...
C'est encore le voyage, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a encore un côté voyage. Le moment que j'ai préféré à Shanghai, donc c'est de scénar d'avant, on est un peu en train de faire le truc en marche arrière, mais parce que les scènes, évidemment, ça a été une montée. Hein,
Tout à fait.
Shanghai, moi, j'ai moins aimé. Le côté, on va voir un antiquaire à nouveau, on n'a pas grand-chose à lui échanger. Et finalement, cet antiquaire nous donne juste le nom d'un autre antiquaire. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un côté un peu copier-coller.
Puis les deux, en plus, n'avaient pas forcément grand-chose à nous apprendre au final. C'était...
Même si l'ambiance, encore une fois, Adrien, tu la tenais, hein, parce que après, l'antiquaire qui nous regarde partir, t'as mis plein de détails qui montraient que ce mec était sous pression, l'antiquaire de Shanghai. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Peut-être qu'on le reverra plus tard, ce personnage, je ne sais pas.
Il y a des choses que vous ne savez pas pour l'instant.
Voilà, tout à fait. L'exploration de la maison abandonnée, les filles. C'est vous qui avez...
On s'attendait, en fait, on s'attendait à un gros truc, à une scène façon, celle des cinq supplices qu'on a vu après.
Ouais, moi je m'attendais plutôt à trouver un truc caché, etc. Et en fait, ce qui était cool, c'est que tu nous as pas laissé chercher des heures.
Oui.
Adrien, tu nous as dit, non, il n'y a plus rien. Ok, je pars.
Voilà, ouais.
Mais on a quand même joué un tout petit peu le début de l'exploration.
Oui.
Et l'intérêt, c'est qu'en fait, je vous fais des fausses explorations qui servent à rien. Enfin, le jeu les présente parce qu'en fait ça fait monter la tension. Vous savez qu'à un moment donné il y aura pas rien, à un moment donné il y aura quelque chose, et le fait que tu saches pas quand est-ce que le diable te saute au visage,
tu vois, le fait d'avoir eu une exploration avec rien a fait que quand on est rentré dans la petite maison,
du coup on était plus
moi j'étais sereine, donc je suis rentrée
y est quand même allé deux jours, mais
je m'attendais pas du tout à avoir un truc comme ça qui me tombait dessus, notamment ma perte de San, et du coup c'était cool, c'était bien amené.
J'ai quand même bien aimé le fait que quand on arrive il y a des gens qui sont en train de pêcher juste devant la maison. Et que du coup, on se pose la question, est-ce que c'est pas des gens qui surveillent la maison? Et comment on va se comporter avec eux? Et etc, etc. Le fait qu'ils restent, après, nous a confirmé que c'était pas des gens qui nous voulaient quoi que ce soit. Et que c'était juste, en fait, des gens qui profitaient du terrain pour soit piller, soit jouer. Ils avaient juste mis leurs enfants à jouer sur le terrain de Longsdale. C'est une maison abandonnée, après tout, pourquoi pas? Donc voilà, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant comme situation, tu vois. Et le fait que ce soit finalement eux... qui vont après nous donner les informations donc sur le cargo qui est venu décharger la fameuse maison avec l'hippocampe le cargo avec la cheminée à l'hippocampe verte qui est venu décharger cette maison qui reste du coup abandonnée.
Ouais,
mais c'était quand même pas génial.
Moi, tout ce que j'ai apprécié, donc, à, outre celle que vous êtes, des scènes dont vous avez parlé, et surtout la scène de la libération du captif, c'est toutes les scènes liées aux nouveaux, deux nouveaux PJ, Kian Lan, et son amoureux, dont j'ai oublié
Matsumoto.
Le nom. Matsumoto, c'est ça.
Saito Matsumoto.
Donc tout, voilà, donc, toute leur entrée en scène, donc la première apparition de Kian Lan, où on ne sait pas que c'est une jeune fille, on pense que c'est une vieille mendiante et qui se lève comme ça, qui disparaît
ça,
dans les
génial,
ombres,
ouais.
Et puis qui revient en Deus Ex Machina en enlevant sa capuche, ça révèle son apparence. Voilà. Et puis après le fait qu'on découvre que donc ils sont amoureux avec l'autre qu'on a rencontré, qui est notre autre contact. Voilà, tous ces trucs là autour de ces deux nouveaux PJ, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, c'est vraiment pas mal.
PNJ, pardon.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est oui, cette aussi les changements.
C'est un lapsus révélateur. On y reviendra.
J'ai bien aimé, moi, ces changements de temporalité, en fait. Il y a beaucoup de changements de temporalité dans le scénario, ce qu'il n'y avait pas, en fait, dans le scénario d'avant. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé. On a l'arrivée à Dairen, où on a un moment très fort où on se fait maltraiter, entre guillemets, par l'armée. On arrive, on a une petite interrogatoire, on a une très grosse scène très forte. Ensuite, on va avoir un moment plus calme et en même temps quand même dans l'urgence. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait, où on va, on doit aller comment s'appelle cette ville, on doit aller à Bakuyan. Comment
Bayou-Kwan.
On fait
Bayou-Kwan.
Bayou-Kwan. Du coup, on a à nouveau une scène finalement de balade, mais où on sent une tension qui monte puisqu'on est confronté à plein de choses. Et finalement, là, cette fois-ci, cette balade nous sert non pas à passer le temps, mais vraiment à avoir une tension qui va monter.
Ouais.
Et ensuite, on va arriver dans un village perdu. Et là, la tension ne va faire que monter jusqu'à un moment où on arrive dans un cimetière. Et au final, quand on arrive dans le cimetière, on a les boules. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, j'avais peur de Matsumoto. Je me disais, mais attends, ça se trouve, ce n'est pas des gardiens, ça va être les boules.
Oui, c'est ça aussi que j'apprécie avec eux. C'est qu'en plus, on ne sait pas jusqu'au bout si vraiment on peut leur faire confiance.
Puis jusqu'à l'apothéose finale, quoi.
Ok, le réveil donc de Guan Yin, qui est assez génial, hein, effectivement, avec le cimetière donc, qui se fissure, qui se fend, ces créatures des profondeurs. Ils ne sont pas les profonds, hein, qui sont les... puisque les profonds n'existent pas. C'est un peu comme les Skaven dans Warhammer, en fait, les profonds n'existent
pas. Là,
ce sont
des Shendé.
Les Shendé, tout à fait. Le mot profond n'est jamais prononcé par personne.
Non.
Peut-être à un moment donné, y a-t-il le terme créature des profondeurs ?
Non, c'est juste les poissons qui marchent.
C'est soit poissons les poissons qui marchent, soit les chaînes
ouais. Et donc, ils sont le fameux. Parce qu'à la fin de la dernière séance de jeu, je ne peux pas dire du scénar, parce que
oui,
on ne les joue pas en scénar. Enfin, finalement, on fait des séances de jeu, puis on joue plein de scénars en même temps dans la séance. Des longues séances. Et on nous dit qu'il y a l'océan noir, qui est un concurrent, un rival de Saïk Fongli. Mais qui n'est pas notre allié pour autant. C'est-à-dire qu'il y aurait trois puissances, nous, Saïk Fongli et l'océan noir. Donc les profonds qui sont les membres de l'océan noir. Et aussi les propriétaires de ce cargo avec l'hippocampe. Et dont on apprend qu'eux-mêmes sont alliés aux Japonais, en fait.
Ouais.
Donc les factions commencent gentiment quand même à se mettre en place, là. On a d'une part les Japonais alliés à l'océan noir / les profonds. D'autre part, Saïk Fongli liés à des créatures des ombres / les intérêts chinois, on va dire, ancestraux, clairement.
Bah c'est compliqué, parce que les intérêts chinois ancestraux, il y a aussi les gardiens qui s'en revendiquent.
Oui, 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 tout à fait, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et nous qui représentons une vision plus prosaïque, mais non, t'as raison, parce que les gardiens, mais non, t'as tout à fait raison. Ce serait le combat de... Il y a les Chinois de la lumière, si j'ose dire, qui seraient des gardiens, et
c'est
les Chinois des ténèbres qui seraient
ça
qui font de lui. Sachant que dans tout ça, il y a une autre puissance dont on n'a pas du tout parlé pour le moment, c'est les communistes. Et moi, je me demande s'ils vont intervenir ou pas dans le scénario, au moins en tant que force politique.
Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, effectivement, la Chine est en guerre civile.
Exactement.
Entre le Kuomintang, le gouvernement qui aujourd'hui s'est réfugié à Taïwan, dans le vrai monde, hein, et la Chine communiste. Et cette guerre, elle est en paysage lointain. Est-ce qu'elle va revenir ou pas ?
Alors, il y a une information qui m'intrigue, c'est on sait que le seigneur de guerre que sert Saïk Fongli,
ouais,
a été le père de ce seigneur de guerre, a été assassiné par des communistes.
Oui.
Lui-même est tombé malade après. On imagine que c'est Saïk Fongli qui le tient malade. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'imagine pour prendre le pouvoir.
C'est une bonne hypothèse, mais ça peut être aussi des communistes.
Ça peut être aussi, voilà, une autre faction, tu vois, qui serait cachée. Bon, ça, on verra bien par la suite ce que ça donne. Alors moi, dans le registre des reproches, je ne sais pas si vous en avez. Ou... J'ai l'impression que vous, ça a l'air d'être. Vous allez encore me laisser parler toute la fin du podcast.
Attends,
j'ai un reproche qui correspond en fait à ton Adrien. Ressenti, et je pense que c'est ça, c'est vraiment lié à ce dernier scénario où donc là, vous arrivez au cimetière pour récupérer le corps et ensuite faire le rituel. Il y avait deux choses. Une, c'est un scénar qui est pas très bien amené dans le bouquin. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment le faire jouer. Et ensuite, l'autre élément, c'est qu'on a été un peu pressé par le temps. J'avais envie de finir sur un petit cliffhanger. On n'avait pas forcément le temps devant nous. Donc, je n'ai pas laissé le temps là-dessus. Ensuite, je vois venir ta critique là-dessus et je la valide aussi. Hein, elle est...
Alors, moi, je n'avais pas du tout critiqué ça. Ah ouais, moi, j'ai bien aimé ce scénario. D'accord. Moi, en règle générale, je n'aime pas quand ça traîne.
D'accord.
Donc, j'avoue que les scénarios qui avancent un peu, ça ne me dérange pas du tout. Non,
moi je voyais venir une critique à base de les deux PNJ.
Ah oui, ça, mais ça c'est autre chose. C'est d'une manière générale dans cette campagne. Il y a toujours des PNJ. Il y a toujours Mei Fang.
Alors Mei Fang et Georges Guédon, je leur donne très peu la parole.
Ah, je parle pas de toi.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Parce que on voit bien que tu les écartes volontairement. Ouais. Mais ils sont là quand même.
Maintenant, Georges Guédon, il sera définitivement écarté, puisque de toute façon, il est mort. Octave a pris son identité.
Mais ça pose certains problèmes de retour en arrière, de crédibilité du contenu fictionnel. Parfois, on est obligé de revenir en arrière en disant « Ah oui, mais attendez, lui, on l'a oublié dans la barque, alors qu'est-ce qu'il est devenu ?» Tu sais, parfois, on se concentre surtout sur nos personnages à nous, et on oublie tous ces PNJ qui nous suivent. Il y a une espèce de chapelet de PNJ qui nous suit en permanence.
C'est pas décrit dans la base de la campagne, mais est-ce qu'une manière serait pas de vous donner la carte du PNJ en question pour que vous l'ayez toujours vous dans les mains, en fait?
C'est possible, hein. Ouais, ça serait une bonne méthode.
Parce que les personnages qui sont au cœur de l'action, c'est-à-dire les PNJ importants, genre Mei Fang, elle a toujours son image accrochée à l'écran, ça c'est clair. C'est pareil pour Georges Guédon quand il était là. Je mets les PNJ importants qui interviennent, les ennemis, les gentils, les machins, et ceux qui sont fixes et qui sont grosso modo là en constante, ils sont affichés. Mais c'est vrai que c'est peut-être différent de l'avoir de... Enfin, je sais pas.
Non, moi, la petite remarque que je pourrais faire... C'est que Kianlan et Matsumoto, au final, ils servent pas à grand chose. Et qu'on aurait juste pu nous donner les informations là, et on aurait fait les trucs.
Alors, qui aurait pu vous donner les informations là?
Par exemple, bon, Kianlan, elle aurait pu juste nous donner les informations.
Tu veux dire qu'on aurait fait le rituel pour réveiller le vieux rabougri, là?
Non, mais on aurait pu aller chercher son corps et l'emmener là où elle l'a emmené. Parce que du coup, moi, j'avais l'impression d'avoir un peu le cul entre deux chaises à un moment. Parce que quand il commence le rituel, en fait. Il n'y avait plus de bruit, donc j'ai compris que c'était à nous de poser les questions, mais moi je pensais que du coup ce serait à elle de les poser à Matsumoto, vu que c'est eux qui sont au courant de ce qu'il faut faire. Et j'étais étonnée en fait. D'un côté ils sont classe, c'est cool, on a enfin des gens à qui parler, mais ils ne donnent pas plus d'informations que ça. Et
Ouais, mais du coup, moi, je trouve qu'ils sont quand même intéressants, c'est justement dans cette ambiguïté. C'est eux qui nous emmènent et on les emmène, on ne sait pas trop où, ils ne veulent pas trop nous le dire.
Ouais. Donc, du coup,
ils contribuent quand même à l'ambiance fantastique, inquiétante.
D'ailleurs, quand tu disais que tu n'étais pas confiant, tu n'avais pas confiance.
Mmh. Et ça, j'étais super content que ça passe bien, en fait, parce qu'il se présente comme un gardien, il est japonais, c'est vrai que. Il y a de quoi se poser des questions, quoi.
Et puis pourquoi il nous a pas tout de suite révélé son identité?
Les joueurs vont sans doute se méfier de lui. Et ça, c'est trop cool quand ça se passe vraiment, parce que tu te dis, bon, ça, soit il pourrait carrément ne pas vouloir bosser avec lui, soit au contraire lui faire une conscience aveugle de PJ qui font, ah bah c'est la piste suivante du scénario, on y va. Ouais. Et c'est cool du coup de voir que la.
Mais je me méfie de cette écriture, parce que depuis le début, c'est très. Un PNJ A nous donne un indice qui nous mène dans un lieu.
C'est beaucoup.
Dans ce lieu, on rencontre un PNJ qui nous donne un indice qui nous mène dans un autre lieu. Mais cette chaîne d'événements va-t-elle s'arrêter? Et moi, il y a un moment donné où je sens le PNJ qui va nous donner un endroit, nous dire d'aller à un endroit où ce ne sera pas le bon lieu.
Si je vous dis que ça a déjà eu lieu?
Oui, peut-être. Voilà, c'est ça, exactement. Ça se trouve, ça a déjà eu lieu. On a perdu déjà beaucoup de temps. Tu nous disais qu'on avait de l'avance sur le train et que là, on a d'ores et déjà perdu beaucoup de temps. Il y a aussi ce protagoniste, ce Wen, qui est le prisonnier qu'on a libéré, On a libéré de Jask. En fait, il était prisonnier à Jask. On s'en est emparé, on l'a récupéré dans notre avion
pour l'interroger. Parce que c'est un
séide. On a découvert qu'il avait effectivement ce tatouage et qu'il était un séide. On l'a libéré ensuite, retrouvé supplicié par la suite, parce que les Japonais qui l'ont capté à la frontière, ils n'ont pas laissé passer et ils s'en sont servis pour faire le rituel. Ce qui nous montre d'ailleurs que les profonds sont bel et bien les alliés des Japonais. Qui fait les... Moi, la vraie question que je me pose, c'est qui fait les rituels des cinq supplices? Et pourquoi ils le font?
Ah bah justement, je me pose vraiment la question de savoir à quoi sert ce rituel.
Quoi sert ce rituel?
Oui, parce que la première fois, il était fait pour
protéger
aider Liu Chen.
Liu Chen, ouais.
Et là, le voici utilisé pour...
Est-ce que ce serait pour entrer dans le royaume des ombres? À mon avis, il voulait envoyer Liu Chen dans le royaume des ombres.
Peut-être le commandant.
Après, n'oublions pas que la partie s'est finie avec vous qui réanimez Guang Ying. Vous posez pas mal de questions, mais on s'est arrêté parce qu'on avait une nécessité de s'arrêter. Et on a un peu accéléré ça. Donc là, la prochaine fois, quand on reprendra, c'est des questions que vous pouvez leur poser. Hein, n'hésitez pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que le rituel des cinq supplices etc.
Il faut ajouter aussi que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une séance.
Ça faisait plus de 6 mois. Quoi.
Et que ça a été extrêmement difficile au départ de se remettre en tête les enjeux de la fiction, les PNJ, etc. Et ça, c'est la critique moi, principale que j'ai vis-à-vis de cette campagne. Il y a trop de PNJ. C'est ça qui est le problème. Cette campagne, elle a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire, elle a les défauts de ses qualités, pardon. C'est-à-dire que sa qualité, c'est d'avoir beaucoup de matériel, beaucoup de cartes, beaucoup de PNJ, très crédibles, très consistants. Ça, c'est incroyable. Enfin, c'est une rédaction de ouf, quoi. Chaque lieu est cartographié, chaque PNJ est décrit, et ils ont tous une crédibilité, renforcée par ces fameuses cartes qui nous donnent la photo. Le souci de ça et le défaut qui va avec ça, c'est que du coup, le nombre de noms. Enfin, en 4 heures de jeu, en 3 heures, pardon, 3 heures de jeu, j'ai eu de quoi remplir une feuille A4 de noms. Et ce ne sont pas des noms français ou faciles à retenir pour des Européens, ce sont que des noms chinois ou japonais. C'est extrêmement difficile. Enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti cette difficulté, mais...
Ouais, moi, j'essaye de retenir ceux qui me paraissent importants et de tant pis laisser tomber pour les autres. Donc, j'essaye de faire le tri, en fait, entre ceux qu'il faudrait retenir et ceux qu'il faut...
Et moi, je fais pareil.
Et moi, je lisais dans les commentaires l'autre jour du blog, on nous reproche de peu faire de roleplay. Mais un des trucs qui nous empêche... Alors, c'est sûr, on en fait énormément. Hein,
oui,
ça, c'est pas vrai.
Hein,
vraiment,
Toute la scène du deal avec...
avec
à Shanghai, ouais.
Avec l'opium. Pas uniquement, il y a des histoires d'amour à la table. Enfin...
Oui, c'est ça, ouais.
Ouais, d'ailleurs,
là,
y
tu
en
vas
a
bientôt
une...
coucher avec Mayfair.
Parce que moi j'ai noté au fur et à mesure toutes nos petites perles. Et,
il va falloir qu'on en parle de ça.
Et ta citation, c'est « Je suis couvert de sang et de poisson, mais on s'aime
». Oui, parce qu'effectivement, après la bataille contre les profonds, j'essaye de protéger un peu Mei Fang et compagnie.
Il avait un deuxième trou de balle. Hein.
Et puis en fait, le truc, c'est qu'elle est choquée. Et moi, je suis psychologue, donc c'est facile de... Elle est du transfert,
abus
tout
de pouvoir,
ça. Bon, un petit peu. C'est vrai que c'est pas très bien, mais bon. Mais bon, en même temps, on est tombé amoureux avant qu'elle soit choquée. Hein,
enfin, donc, toi.
Je suis tombé amoureux d'elle avant. non, elle est amoureuse de moi.
Depuis, peut-être, mais d'accord. Avant, elle n'était pas forcément spécialement, tu vois.
D'accord. Enfin, en tout cas, je ne l'hypnotise pas pour obtenir son consentement. On est bien d'accord. Donc, en tout cas, voilà ce que je veux dire, c'est ça. Il y a beaucoup de personnages, et le fait qu'il y ait beaucoup de personnages avec des noms très complexes limite aussi le roleplay. C'est très difficile de faire parler son personnage pour deux raisons dans cette campagne. La première, c'est que tous les noms de villes et de personnages sont complexes à prononcer. Donc ça nous fait passer très rapidement, ça ridiculise le personnage parce qu'il se rate. Et deuxième élément, et je te laisse prendre la parole ensuite Adrien, Mei Fang, qui est notre traductrice. Extrêmement difficile de jouer à un personnage qui ne peut pas parler directement avec les PNJ.
Ouais, du coup le roleplay se passe surtout entre nous.
Et oui.
Ouais, alors après, ce que j'ai essayé de faire avec Mei Fang, c'est que je considérais que quand vous parliez à un personnage, Mei Fang faisait la traduction entre les deux.
Oui, t'as jamais mimé la traduction.
Oui,
sauf
fait,
que
oui.
Parfois, moi j'ai fait dire des choses à mon personnage et que tu m'as fait dire Mei Fang a traduit ça comme ça parce que ça aurait été, par exemple, ceci, cela.
Oui.
Bah, et du coup, comment est-ce que tu veux piéger tes PJ? Alors, il faut que Mei Fang meure dans ce cas-là. Et du coup, tu pourras piéger tes PJ à l'honneur. Tu vois ce que je veux dire? Mais
ouais, bien sûr.
Il y a un petit côté là, contradictoire.
C'est pas non plus l'enjeu de la campagne que de.
Non.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que la scène en question, en gros, c'était face aux pêcheurs qui squattaient le jardin de Longsdale. Le personnage de Romaric, Octave, propose au père de famille de lui donner de l'argent pour qu'il nourrisse ses enfants. Sauf
j'ai
qu'en fait,
vous ferez plaisir à vos enfants.
Vous ferez plaisir à vos enfants.
Ce qui est une réaction typique de.
Sauf qu'en fait, ça, du point de vue de la face, c'est mal vu parce qu'en gros, c'est sous-entendre qu'il n'est pas capable de s'occuper de ses enfants.
Ah, c'est ça. Ouais.
Et donc, Mei Fang l'a traduit autrement. Par contre, le personnage de Romaric aurait pu aller donner directement, par exemple, des bonbons aux enfants ou de l'argent aux enfants.
Ouais.
T'aurais pu le faire en fait. Hein.
C'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais.
T'avais le moyen de merder tout seul, il n'y avait pas de problème quoi.
Mais tu vois, pour l'ambiance, j'ai trouvé ça cool. quand tu me me rappelles à l'ordre et tu me dis non parce que là machin, j'ai trouvé ça génial, tu vois. Le problème c'est que du coup pour le roleplay c'est plus compliqué, tu vois, il y a un côté.
Je comprends que ça te mette une barrière. Après pour le coup des noms, je suis pas spécialement d'accord parce qu'en moi en fait qu'est-ce qui se passe, moi comment je le fais? Il y a des noms que je prononce mal et c'est pas grave, j'enchaîne, tout le monde sait de quoi je parle. Le Biayukian, Biobiakian, j'arrive pas à le prononcer. J'ai du mal, faut que je le déchiffre à chaque fois, donc c'est pas grave. Je le prononce, ça sort comme ça sort, vous comprenez de quoi je parle et on enchaîne en fait. C'est pas...
Sauf que toi, tu peux faire lui en montrant sur l'écran le personnage. Tu le
Je le fais pas souvent.
Et alors, Adrien, t'as le problème de la prononciation, t'as pas le problème de la mémoire. Parce que ça, t'as tout décrit.
Ça, c'est sûr. Le truc, quand je montre sur l'écran, genre c'est lui, je le dis pas parce que j'ai oublié son nom, je le dis parce que vous voyez le visage.
Alors ça c'est intéressant aussi, il y a eu un très bon artefact, je note Adrien, t'inquiète. Il y a eu une très bonne scène où à un moment donné en fait Adrien dit subrepticement derrière le rideau, il dit à Flavie tu vois passer quelqu'un et il lui montre la carte et il la recache immédiatement derrière l'écran. J'ai trouvé ça un artifice en fait de...
Ouais.
Parce qu'on ne lui a montré qu'à elle, parce que nous, on l'avait pas vu.
Parce que nous, on l'avait pas vu. J'ai trouvé ça vraiment encore inutile. Je suis désolé, mais ces cartes, définitivement, sont probablement...
Elles font partie du jeu, bien sûr.
Moi, si je dois retenir un truc de cette campagne, ce sera ça. Franchement,
bien sûr.
Franchement,
c'est le gros atout du jeu. Ouais. Ces cartes, c'est très, très compliqué d'y jouer. Parce que là, du coup, le défaut des noms de personnages, il explose.
Exactement.
Parce que là, moi, ce que j'avais dit dans les podcasts précédents, ce que j'avais dit dans les podcasts précédents, c'est que ce qui aidait à se rappeler des personnages, c'est aussi que tu voyais leur bouille, quoi. Quand tu voyais, quand tu vas de ville en ville où t'as à chaque fois des ambassadeurs européens qui ont tous une tête avec un chapeau, une moustache, ben au bout d'un moment les moustachus européens,
ils sont tous vieux en plus.
Ils sont tous vieux moustachus. Je veux dire, le prénom, le nom, tu vas tous les mélanger, ça va tous être Monsieur l'ambassadeur, quoi. Là t'as des bouilles à mettre en face et donc même si le nom tu peux te mélanger, au moins le visage te parle. Et ça c'était vachement fort parce qu'à un moment donné j'ai montré des visages et vous avez ah mais lui il me rappelle machin et donc même sans connaître le nom vous aviez quand même un support de mémoire
génial. Et ça c'est des sensations que je n'ai retrouvées que dans un autre jeu qui est L'Œil Noir, lorsque j'avais joué avec ma nièce et mon neveu à L'Œil Noir, où il y a un moment donné en fait un PNJ donc était représenté par une figurine. Dans L'Œil Noir on a des petits avec le supplément, il y a des petites figurines en fait qui sont données avec des dessins de personnages dessus qu'on anime sur le damier. Et à un moment donné en fait donc il rencontre un personnage et au cours d'un tournoi j'avais placé ce personnage dans les gradins. Et à un moment donné alors qu'elle se bat, ma nièce remarque ce personnage, dit mais c'est lui, c'est le méchant, il nous regarde en train de nous battre. Et ça, et là, exactement pareil, c'est-à-dire que la référence en fait au matériel devient un élément en fait dans la fiction qui crée une espèce d'épiphanie et qui fait vraiment du bien.
Moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans deux autres jeux. Alors, c'est un grand mot de dire c'est des autres jeux, c'est des deux autres techniques de deux autres MJ. Il y avait le Groomf qui nous faisait ça quand on avait joué à Nanochrome. Et je pense qu'il le fait pour plein d'autres jeux où il a ses cartes avec les photos de personnages qu'on va créer des traits de caractère, des qui c'est, etc. Et du coup, ces cartes de personnages, les personnages ont une présence physique. Et il y a aussi un pote, Gawel, quand il nous faisait jouer à une campagne de... c'était quoi ? Je ne me rappelle plus exactement.
Bah, si c'est celle où je suis, c'est celle qui a un espèce de Buffy-like.
Oui, mais c'était quoi le système de jeu, Fate. Il nous faisait jouer avec Fate, un truc type Buffy contre les vampires dans un lycée avec des affaires de lycéens et machin. Et du coup, à chaque fois qu'un PNJ intervenait, pour la fois d'après, il cherchait une photo d'un acteur célèbre qui lui plaisait bien.
D'une série type
d'une
Buffy,
série, ouais, voilà.
Type Roswell.
Et donc il le sortait. Et puis donc ensuite, quand tu allais discuter avec Michael, Michael, il avait la tête de, de Leonardo DiCaprio, quoi. Et donc tu vois, t'avais le visage et ça collait, ça donnait.
Et ça fait un côté guest star. C'est comme dans ces séries où il y a des persos.
Et surtout, il prenait un acteur qui collait au personnage. Tu vois, genre si c'est le Bellâtre, ça colle bien, quoi.
Sympa.
Et donc ça marche bien. Et c'est des techniques qui sont... C'est dommage que jusqu'à présent ce soit souvent de la technique de MJ ou là du matos supplémentaire.
Ouais.
Et c'est intéressant du coup de réfléchir à ça comme matos partie prenante du jeu en fait.
Ouais.
Et c'est pas si compliqué que ça à faire parce qu'au pire, c'est des photos libres de droit sur internet que vous enchaînez sur une feuille A4 à découper à la maison. Mmh. Ça n'a même pas besoin d'être du matériel à fabriquer en format cartonné ou autre. Ça peut être à imprimer sur du papier A4 en noir et blanc à la maison. C'est pas
Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que toutes les campagnes de Cthulhu font ça. C'est pas une révolution de la V7, c'est pas une révolution des 5 supplices. Moi, je me souviens des premières bases de Cthulhu que j'avais, des cartes, il y avait déjà toutes les photos des PNJ dans le truc. Il y avait même un encadré spécial pour dessiner son personnage sur la fiche de personnage. Et ces fiches de personnage se retrouvaient à la fin du bouquin avec un dessin qui était croqué par les auteurs, par les illustrateurs du jeu. Donc tu pouvais le faire. Mais là, ce qui est révolutionnaire, c'est de l'avoir foutu sur des cartes et donc de pouvoir le décorréler de la fiche de personnage. Parce que, ouais, souvenez-vous, on a tous vécu ça, le MJ qui sort
qui
son
cache
bouquin,
la moitié du texte pour montrer l'illustration.
Pour montrer l'illustration en disant, vous arrivez devant cette maison et qui montre, en fait, la base qu'il a sous les yeux. Mais là, le fait que ce soit des cartes qui soient amovibles, qui se mettent sur l'écran,
j'espère que dans le jeu non version deluxe, il y a le PDF pour les imprimer. Moi, c'est vraiment ce que j'espère. J'ai pas vérifié.
Ouais. J'espère mais aussi.
Très fort. Ouais.
Flavie, t'as noté d'autres gags ? Tu voulais peut-être dire autre chose ?
En fait, moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce scénario, c'est qu'il y a plein de moments au final où, comme la pression monte, et ça, c'est aussi un des trucs qui a été cool avec toi, Adrien, c'est que t'as mis volontairement une musique très stressante pendant tout le scénar. Ce qui fait que même quand on était censé se détendre, on se détendait pas. Et donc, pour se détendre, il a fallu qu'on rigole un peu, quoi. Parce qu'on n'allait pas pouvoir être stressé pendant autant d'heures. Et du coup, on a commencé des fois, évidemment, à sortir du n'importe quoi ou à faire des petites phrases. Parce qu'on a aussi cherché à rendre nos persos classe, donc on faisait pas mal de petites phrases. Et c'était très agréable. J'en ai noté et c'était très drôle, d'avoir pu noter, par exemple, quand Guédon meurt et que Natacha récupère son pistolet. Natacha dit « Ah, j'ai l'arme à Guédon
!» Celle-là, c'est la meilleure de la séance.
C'était la meilleure, c'est pour ça que
j'ai récupéré l'arme à Guédon. Ça, c'était beau.
Voilà. Et toutes ces petites choses-là m'ont beaucoup fait rire, en fait, ces moments. Ça a aussi fait que moi, j'ai beaucoup apprécié cette séance parce que j'ai autant frémi que j'ai ri. Et ça, c'est bien.
Et on retrouve un des grands plaisirs que nous, on prend à Cthulhu, en fait. On a aussi ri du système de jeu beaucoup, hein, encore une fois. Quand tu nous as décrit les blessures mentales qu'on prenait
quand moi, il a fallu que je sorte parce que je devais avoir une amnésie et qu'il fallait pas que je vois ce qui se passait. C'est un des trucs que je préfère à Cthulhu. C'est tellement drôle, quoi. Moi, je sors.
Tu reviens aléatoire de la table. Tu reviens 10 minutes plus tard et ok, on en est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon personnage, il est où? Ça, c'est cool, ça.
Ouais. Guédon qui est pris de frénésie, que je dois calmer à coup de planche à coup.
Alors tu le tapes, mais pas trop fort.
Et ce qui a été rigolo, c'est qu'à la fin de la partie,
oui,
c'est la seule fois où t'as réussi ton compétence d'arme de corps à corps, et donc t'as réussi à gagner de l'XP en corps à corps parce que t'as batté le PNJ qui était avec vous, quoi.
C'est énorme quand même. Ça, c'est drôle, quoi. C'est vraiment drôle. Et en même temps, ça renforce l'ambiance, Natacha.
Tu devrais aller tuer des sangliers, en fait, quand on fait rien pour gagner.
C'est presque ça.
Partie des trucs, moi, qui me plaisent. Moi, j'aime bien toutes les sortes de jeux de rôle, hein, j'avoue. Je suis un peu plus de mal avec le ludisme, mais le ludisme me plaît quand même. Mais là,
des D4, t'avais kiffé. Hein.
Moi, j'avais kiffé des D4. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, quand je joue à un jeu de rôle tradi, c'est de pouvoir faire cet aller-retour. En fait, on fait plein de blagues méta quand on joue à Cthulhu. Et je crois que c'est un de mes grands plaisirs, parce que quand on fait des blagues méta, parce que souvent on voit les problèmes du système, on est là, tu fais comment pour faire ton jet de vigilance? Attends, il n'y a pas marqué vigilance. T'as qu'à me mettre du toc, là.
les jets de vigilance qui se transforment en jet de toc, c'est drôle, quoi.
Voilà, ouais. Et on fait plein de blagues méta, et moi, ces blagues méta, ça fait partie des choses qui m'ont fait aimer, en fait, le jeu de rôle. Je me rappelle qu'un des premiers moments où j'ai joué au jeu de rôle, il y avait eu une grosse blague méta. Et en disant, t'as qu'à faire un jet, quand on était en train de faire du roleplay, et le personnage, le PNJ, me disait, t'as qu'à faire un jet de ça, on verra si t'es forte. Et moi, ça fait partie des gros trucs que j'aime, en fait, dans le jeu de rôle, c'est le fait de briser tout ce quatrième mur, tout ça. Et quand je joue à Cthulhu, on le fait énormément parce qu'on connaît bien le système et qu'on connaît les défauts, tout ça. Et ça me fait plaisir.
Et ça vient en renforcement de l'ambiance, c'est ça qui est fort. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure, Fly, le fait qu'il ait mis de la musique sombre, tout le long de la partie, même pendant les moments de détente, fait que après la blague, on se remettait dans l'ambiance et qu'on était vraiment dedans. On faisait pas semblant, tu vois. Donc
le seul truc que j'ai ajusté, c'est quand la scène allait devenir intense, j'allais monter le volume.
Ouais, pas mal ça.
Et tout le reste du temps, c'était juste en fond. Je balancerai les liens vers les musiques dans les commentaires, sans doute.
Elles sont vraiment bien. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Ouais.
Au pire, tu pourras le faire toi aussi dans l'article, parce que je te les ai laissés sur le...
Et un truc que j'ai adoré dans ta musique, alors je sais pas si c'est fait exprès, du coup, il fallait que je te pose la question. Pendant tout le scénar, en fait, t'as mis des musiques qui faisaient... avec des trucs très...
Des chants tibétains très sombres.
Et au moment où on prend le train,
Là, c'était un aléa de la playlist.
Eh ben, c'était génial. Au moment où on prend le train, il y a eu de la guitare. Une sorte de guitare.
Et même quand on est rentré dans la. Je sais plus où on était rentré, où c'était déjà un moment plus calme, il y avait juste des petits tintements de clochettes, où c'était un peu plus léger aussi.
Mais tu vois, le fait de mettre de la guitare.
Mais bien, ouais.
C'était quand même une guitare un peu flippante, mais c'était une guitare un peu plus légère, et qui allait très bien avec le fait de partir avec le train. Je me dis, quand même.
Il y a des moments comme ça où la playlist te rend service et c'est cool.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des moments où elle ne te rend pas du tout service, et ces moments-là, on les oublie. On ne garde que les bons moments, les moments où la. C'est quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose que je remarque depuis très peu de temps, parce que moi, j'avais jamais rencontré de MJ qui faisait ce que tu fais, c'est-à-dire qui laisse de la musique en fond. Ça fait très peu de temps. On a vu ça avec Thomas Munier, Fabien, toi. Mais moi, avant, j'ai connu que des MJ DJ. C'est-à-dire systématiquement, les MJ faisaient des playlists qui étaient adaptées à des scènes. Moi, j'ai toujours appris à jouer comme ça. Ben Guérin, Karim, moi-même.
J'ai appris à utiliser la musique comme ça. La musique en scénario, je l'ai appris comme ça sur un one-shot que j'ai joué en convention où le mec avait son scénar avec à tel moment mettait le piste, tel moment mettait le piste. C'est génial. Ça demande une organisation. Enfin, moi, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de partie.
J'aime beaucoup. D'ailleurs, je le fais.
Ouais, bien sûr.
Mais je découvre aussi le plaisir de jouer en musique comme tu le fais.
Mais en fait, ça demande une préparation différente. C'est-à-dire que prévoir ta musique de scène, ça demande d'avoir un PC portable à portée de main qui est du même côté de la table que l'écran. Et du coup, tu n'as pas à te retourner pour changer. Là, pour changer la musique, il fallait que je me lève, que je fasse trois pas, que je vous tourne le dos, que je réveille le PC qui était en veille. Donc, je ne peux pas me permettre de faire le MJDJ. Ce n'est pas possible. D'autre part, si je veux préparer la musique de MJDJ, ça me demande du temps de préparation. Là, le temps de préparer la campagne, ça m'a bouffé ma semaine parce que mes soirs de disponible, ben, j'ai bossé la campagne.
Ouais. On t'en
remercie. Donc ça m'a bouffé du temps. Donc du coup, préparer la musique en plus, c'est sympa, mais c'est compliqué.
À moins qu'il y ait
une liste de musique prédéfinie. Là, c'est pas le cas. Donc j'ai fait ma recette de musique constante qui doit s'adapter à l'ambiance générale du jeu.
Et tu vois, le jeu, on était tellement dedans. Je dois t'avouer que là, tu viens de m'apprendre qu'en fait, tu te levais pour monter le son. Je ne t'ai pas vu le faire.
Moi je l'ai vu le faire. Parce que je
en face,
mais c'est pas ça, mais je suis très attentif à ces techniques de meneur de jeu parce que je trouve très bonne et tu vois là le coup de la musique et tout, moi c'est des trucs quand il y aura pas de playlist maintenant. C'est un jeu où j'estime que l'ambiance est importante, typiquement Sphinx par exemple. Je veux maîtriser un Sphinx, je veux maîtriser un prosopopée, je veux maîtriser quelque chose. Enfin, je veux animer ce genre de jeu. Maintenant, je pense que je vais utiliser cette technique d'Adrien. C'est-à-dire avoir une musique de fond que je prépare pour ces jeux et ensuite monter le son quand il se passe un truc capital.
Ça marche bien pour les jeux qui ont une ambiance uniforme. Ça peut être compliqué pour des jeux...
Mais là, c'est pas le cas.
Bah, si,
et pourtant,
en fait.
Ça a très bien fonctionné.
En fait, si, parce que Cthulhu, c'est une ambiance sombre tout du long. Le problème, c'est qu'il y a des jeux où tu vas alterner des moments pleins d'espoir et des moments sombres.
Ah oui,
Toulouse, ça reste un jeu où,
où ça peut être sombre tout du long.
Disons-le comme ça. C'est même plus que ça. C'est qu'on sait qu'à la fin, on va tous y passer quelque part. Enfin, j'exagère presque, mais.
Et puis on est tous en train de courir après. Parce qu'il y a même
votre
un moment.
San,
où on
votre
dit...
San, elle va descendre de 10, remonter de 1, descendre de 10, remonter de 1. Elle va pas finir plus haut qu'elle a commencé.
Puis il y a même un moment où on le dit. Je veux dire, il y a quand même le. Jiang Ying qui se réveille des morts, qui nous dit vous allez aller sur l'île de la peste. Et à un moment on dit si on va là-bas on va mourir, on va attraper la peste. Et là on dit mais c'est soit ça soit le monde meurt, on va aller attraper la peste. Mais même un des trucs que je crois que j'ai noté, c'était une des phrases qui était il va nous falloir un bon médecin parce que on sait qu'on va crever quoi.
C'est bizarre.
Tu vois, typiquement,
c'est quand même
typiquement pour Sens, ça passe pas d'avoir une seule playlist. Non. J'en avais deux. J'avais la playlist du jeu et la playlist des combats.
J'ai deux autres exemples, c'est Saint Seiya et Star Wars. Tu maîtrises pas les Chevaliers du Zodiac sans avoir une playlist MJDJ parce que t'as des moments, des phases de jeu. De la même manière, tu maîtrises pas du Star Wars sans la musique de jeu. Ah, Star Wars, tu dis c'est...
Star Wars avec la musique... En boucle avant toute la partie des joueurs
de jeu.
Ça devient pire que la cantine.
C'est le problème, c'est Fabien qui nous racontait comme ça une anecdote qui nous disait que la boucle en fait, de la cantina à la fin dans Star Wars devient vraiment agaçante parce que on la met systématiquement dans les...
Ouais, bien sûr.
Mais bon, pour finir sur cet aspect musical... Juste dire que l'ambiance a été au top durant toute la partie. Même quand le scénar n'était pas génial, l'ambiance, elle l'était à chaque fois, moi, j'ai trouvé. C'était vraiment un vrai plaisir. Par contre, moi, j'ai un peu de mal quand même avec... autant, je suis d'accord, ça fait partie du contrat social de Cthulhu. Autant dans cette campagne, j'ai quand même du mal avec l'assimilation du fantastique par les personnages. Enfin, quand à un moment donné, on dit « Ouais, on va se rendre sur l'île de la peste. Ouais, mais le monde sera détruit si on le fait pas. » C'est quand même un peu abusé, tu trouves pas, Adrien ? Enfin...
Non, moi, ce qui me dérange, c'est Kianlan et Matsumoto. Pourquoi c'est pas eux qui y vont ? Hein ? Non, mais où ?
Parce qu'ils doivent rester pour faire les rituels
c'est
et compagnie.
C'est pas dit qu'ils y vont pas. Hein.
C'est des magiciens.
Oui, en plus, oh oui, moi, j'ai pas parti du principe qu'ils venaient avec nous. Ouais.
Ouais.
Puis ce sont des. Puis ce sont... Bah, moi, je les vois plus comme des. Ils peuvent pas. Ce sont pas des pions qui vont. Alors, peut-être qu'ils vont se déplacer, Adrien, mais tel que je les vois pour le moment, je les vois plus comme des. Justement, les gardiens. Moi, je les vois comme des tours aux échecs. C'est pas des pions qui se déplacent sur l'échiquier, qui font des actions. C'est alors, des gens qui contrôlent.
C'est vrai et c'est faux. Pour Saito Matsumoto, peut-être. Pour Kianlan, vous l'avez vu
oui,
venir vous espionner à Dairen,
oui, elle,
vous
elle
surveiller,
mobile,
vous aborder en fait, et prendre contact.
Archétype cavalière.
Mais je comprends, mais parce que peut-être, enfin, comme moi, ça fait quand même quelques années qu'on joue à Cthulhu, je savais en fait que c'est un des problèmes que j'ai à chaque scénar. Et pourquoi que mon personnage ne ferait pas un rebrouche chemin ? Et pourquoi est-ce qu'il ne s'enfuirait pas ?
Là, tu as décidé de jouer franchement, quoi.
Non, en fait, j'ai créé mon perso pour ça. C'est-à-dire à chaque fois, là, je reprends mon petit papier, je pense que je l'avais déjà dit.
Oui,
dans
c'est
le...
la recherche de l'extravagance, du surnaturel.
Oui, mes enfants me pardonneront mes excentricités. Je m'amuse comme une folle de mes expériences fantasques et de la découverte.
Putain, moi je suis juriste international.
Ben bah oui, je sais.
Ouais.
C'est extrêmement difficile pour moi de cautionner
en fait,
psychologue.
Je joue le avec un aspect, je sais pas, Dupont et Dupont ou Hercule Poirot, tu vois, le mec qui est... qui a une sorte d'optimisme et qui du coup dit oh mais c'est pas si grave que ça.
C'est un peu ce que je fais.
Si oui bien sûr,
oui, c'est vrai.
Bien sûr.
Mais
ça c'est limite.
En tout cas c'est dur quoi. Ouais. C'est, j'ai l'impression que c'est quand même un peu une campagne qui est.
C'est très participationniste.
Allez, je vais lâcher du trop héroïque pour du Cthulhu.
Ah je sais pas.
Ouais, je sais
en fait
pas.
ça c'est un aspect héroïque, c'est-à-dire que vous avez l'impression de devoir aller faire un truc de ouf. Typiquement. Ok, l'île de la peste, j'accepte. C'est effectivement un cas où ça sonne, ça fait vraiment peur. Jusqu'à présent, vous avez rien fait de ouf, gueudin.
T'as raison. On a rechargé un avion en plein vol avec de l'essence.
Oui, mais c'est, mais oui, bon, d'accord.
Pas toi.
C'est vrai.
Non, mais ça c'est juste le côté aventure. Limite, moi, me dérange pas. Indiana Jones, le côté Indiana Jones qui est du pulp dans un scénario de Cthulhu, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est là, je trouve qu'il y a un peu trop. D'implication fantastique des personnages, tu vois, on est... Bon, alors, c'est vrai, Natacha a une très bonne raison, par contre, je trouve.
Oui.
Le coup du tatouage, c'est génial. Parce que du coup, elle est obligée d'aller dans les ténèbres. Tu vois, il y a un côté vraiment...
Mais il n'y a pas un moment où ton personnage, il s'est dit, en fait, parce que moi, mon personnage...
Mais toi, tu t'es fait manger ton ombre.
Mais ça démarre comme ça, donc je ne savais même pas, mais...
Mais moi, je suis juriste international.
Mais moi, ce que je me dis, c'est...
Tu as une ombre complète et pas de tatouage.
C'est ça,
t'as une ombre très terne,
ouais,
c'est
ça t'as, ou... quand même, t'as quand même été en contact avec des gens, a priori, qui ont... Ton premier truc commence à avoir un lien avec le scénar, toi. T'as été confronté à des trucs de la peste et tout aux États-Unis a priori.
Là, oui, c'est vrai, mais ça reste scientifique. Alors, moi, mes deux vraies attaches...
Non, mais juste une chose. Moi, mon personnage, il se dit qu'il est en train de devenir un gardien, en fait.
Non mais ça je comprends parfaitement. Mais en fait,
pas toi du tout.
Mais le juriste international, il s'en fout d'être gardien. Il est déjà gardien de la paix internationale.
Alors, bon, moi il y a deux trucs qui me font.
Alors oui, mais vas-y, je te dis. Puis moi j'aurais un truc à répondre sur ce que tu vas dire. Donc vas-y, je te laisse.
D'accord. Parce que en fait, moi c'est premièrement c'est l'attachement à Mei Fang qui me fait aussi aller dans des trucs comme ça. Et puis le deuxième point, c'est quand même la vision du cerf-volant. Le cerf-volant d'ombre et tout ça dans le premier scénario. La vision, en fait, du fantastique dans les ombres et tout ça, on a quand même assisté à des trucs de Barjo.
Oui. Ah oui, complètement.
On sait que ce type, Saïk Fong Lee, est capable de faire des trucs incroyables. Et moi, en fait, mon idée, un peu en tant que juriste international, c'est de se dire, voilà, il y a de la magie dans le monde. En fait, finalement, de transformer un peu plus mon personnage en ethnographe ou en ethnologue, de partir dans l'idée, il y a de la magie dans le monde. Certaines populations, certains peuples sont capables de les utiliser. Et ça peut poser des problèmes pour l'équilibre, en fait, des forces.
Du droit international.
Non, pas forcément, mais des intérêts européens. Des intérêts européens. Et c'est un peu aussi ce que je vois dans le personnage de Sibylle. C'est que, en plus, je trouve que ton personnage est très subtil, parce qu'avec l'opium, tu t'approches gentiment du monde des rêves, quand même, dans Cthulhu.
Ça, c'était pas prévu, mais...
Mais à mon avis, ça va...
Ah, moi, quand Natacha m'a dit, à la création de perso, ça serait cool que mon perso, il fasse du trafic d'opium, parce que on est en train de regarder Tintin quoi à l'époque, le dessin animé au petit déj en pyjama quoi. Et donc j'ai dit bah cool, c'est bien, c'est pas mal. Et moi j'avais un méga sourire dans la tête.
Et Flavie qui rappelle que fumer de l'opium se dit chasser le dragon en langage urbain, enfin dans le dans... ça je trouve ça, alors qu'on sait, enfin on imagine que justement c'est un grand dragon, le grand ancien en question, qu'on... c'est cool quoi.
Moi, j'ai plusieurs trucs à te répondre là-dessus. D'abord, c'est aussi un... D'abord, sur nos enjeux, moi, l'opium, et toi, le fait que le juriste international se dise qu'il y a quand même un truc sur l'équilibre et sur la position de l'Europe par rapport à ça. Ça, c'est un truc d'Adrien qui a été très bien joué, c'est de nous dire il faut que vous créiez des personnages qui ont un lien avec l'Asie.
Exactement. Heureusement. Voilà. Heureusement qu'il y a ça.
Et le deuxième truc, c'est sur Mefang, ok, ça te fait un intérêt, mais c'est un intérêt sur lequel tu as été proactif. C'est toi qui as créé cet intérêt-là.
Ouais. Oui, et tu te l'es créé dès le début, tu m'en as parlé, tu m'as dit, bon, moi, mon perso, j'ai du mal à voir comment on le lie à tout ça, donc ça va être bon, je cours l'aventure et je suis... t'es aussi, tu bosses aussi pour le personnage de Natacha, il me semble, non ?
Oui, tout à fait, ouais.
T'as aussi signé avec Guédon, donc en fait, il y a des raisons qui sont certes que t'as un peu forcé sur ton personnage pour te donner les raisons.
Je parle du fantastique, moi. Je parlais pas tant de l'implication. Parce que l'implication de mon personnage dans la campagne, il n'y a aucun souci. Ouais, après, l'implication de mon personnage dans des enjeux fantastiques, là, par exemple, typiquement, l'exemple de la peste, c'est dur. Trouver une justification, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, en souriant, j'ai dit « Ouais, mais le monde sera détruit, etc. » Je pensais que vous alliez rigoler. Parce que je me disais, non mais c'est... Enfin, je pensais que vous alliez rigoler en mode « Non mais c'est pas cohérent. » Et en fait, je vous ai vu foncer les deux pieds dedans en mode « Non, tu as raison et tout. » Et là, c'est là que ça m'a fait bizarre. Je m'attendais à ce que vous riguiez et que ça vous sorte de l'immersion, et pas du tout. Et c'est là que je me suis dit « Ouais, en fait, je me suis dit, mais non, en fait, elles ont des vraies raisons. » Tu vois, elle avec son tatouage, toi qui as perdu ton ombre et puis effectivement ton excentricité et compagnie.
Non, j'ai pas perdu mon ombre, moi. J'ai perdu un tout petit bout.
Oui, mais c'est quand même un
élément
fantastique.
Il y a une marque dedans sur l'ombre de mon mollet.
C'est quand même un élément de fantastique de ton personnage, je trouve. Tu vois, c'est... Si tu veux, quand on est un super-héros et qu'on a des pouvoirs fantastiques, c'est normal d'être confronté à du fantastique, tu vois, quelque part. De la même manière, là, vous êtes victime du fantastique, c'est normal que vous chassiez les monstres. D'ailleurs, dans Cthulhu, c'est comme ça qu'on gagne de la santé mentale. Ça fait partie des conditions d'obtention de la santé mentale. Quand on a été victime de choses fantastiques, de vaincre des choses fantastiques...
Et du coup, vu que j'ai buté des chaînes D, est-ce que je peux récupérer de la...
On regardera ça à la fin de la partie.
Mais en tout cas, voilà, il y a cet élément-là. Moi, pas du tout. Et donc c'est ça, c'est plus difficile. Là, me faire aller sur une île remplie de pestiférés, moi, le bourgeois, machin truc, même par amour pour Mefang, je vais avoir du mal, je vais me dire, bon, Mefang...
Alors, ne juge pas encore le jeu sur ça, on le jugera la prochaine fois.
D'accord, très
Romaric.
Bien. Ça marche.
À mon avis, sur l'île des pestiférés, tu sais, ils n'avaient pas l'air très pestiférés, les gens qu'ils envoyaient là-bas.
Ouais, d'accord, ouais. Bon, y a peut-être des choses...
Par contre, ils vont peut-être se transformer gentiment en chaîne des...
Ah, j'avais pas pensé à ça.
Je ne dirai rien. Ils
vont acquérir la traversée des îles, quoi.
Oui, ou alors c'est peut-être l'usine à manger des chaînes des. Enfin, tu sais pas. Je pense qu'on va découvrir des trucs dégueulasses, en vrai.
Ouais. Ok. Eh ben ouais, ça promet. Justement, je voulais.
Parce que faut quand même dire qu'à la fin, on nous vole en fait le pendentif Yufang, qui est le brûloir. Bon, pareil, c'était sur un des petits papiers du monsieur qui distribuait, du monsieur abat-jour. Parce que je trouve que ce qu'il porte sur
comment
la tête...
Comment il s'appelle, Adrien?
Le marcheur... Le vendeur ambulant.
Le vendeur ambulant nous donne un petit papier. Il y avait un truc sur le brûloir. Le brûloir, c'est le pendentif de Gyanging qui s'appelle Yufang et qui permet d'aller notamment dans le monde des ombres. Et il y a une raison s'ils l'ont volé, en fait. Moi, je pense qu'ils recherchent le Necronomicon et qu'ils envoient des humains dans le monde des ombres et qu'ils ont besoin de Yufang pour ça.
Et là, tu me renvoies sur un point qu'on avait critiqué pendant le podcast précédent où tu parlais des sucres pour
les
easter eggs Cthulhu. Ouais. Alors bon, ben là il s'avère que le Necronomicon revient. Et en fait, j'y réfléchis au fait que effectivement à la fois d'avant on avait dit peut-être qu'employer un autre mot que Necronomicon serait plus sage, type livre des morts juste ou autre chose, parce que il y en a marre de ces gags. Et en fait, je me suis rappelé aussi que moi j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, enfin ça n'a pas été mon premier jeu, mais un des premiers jeux auxquels j'ai joué c'est Cthulhu. Et du coup, jouer avec ces clichés à l'époque, ben c'était rentrer par la porte par laquelle tout le monde rentre. Et donc, en fait, quelque part, une grande campagne qui était la première campagne de la V7, qui sera aussi peut-être la première campagne que beaucoup de jeunes gens joueront, c'est quand même cool qu'il y ait ces mots-clés, je trouve.
D'accord. Pas mal.
Je comprends que pour des vieux routards comme nous, il y a un aspect cliché.
Non, je dois dire que là, tu me...
Mais ouais. Je trouve aussi respectable le fait de donner les codes aux petits nouveaux.
C'est pas mal. Et après, on peut s'interroger sur le fait de faire une V7 de Cthulhu. Mais ça, c'est
voilà, mais ça, c'est autre chose, bien
ouais.
sûr.
Mais je suis d'accord. Ouais, pas mal, pas mal. Dernière question que j'avais envie de vous poser, enfin un tour de table. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur le contenu fictionnel et sur le ressenti au sujet de la partie, rien de particulier.
Sur votre santé mentale malléable.
Les diamants, les diamants, tout ça, tu les as bien sentis, les diamants Ça t'a pas fait complètement stresser, ça? Je me disais.
Si, je savais pas trop quoi en faire, en fait, mais bon, pour l'instant, je les garde cachés.
Ça fait pas partie de ces objets que le PJ fait exprès d'oublier pour éviter de le rappeler au MJ?
Ouais, j'essaye plus ou moins.
Je pense que ça t'a sauvé les peaux à d'autres reprises que je les ai oubliées. Hein.
mais les armes à l'aéroport, heureusement qu'on les a tous oubliées. Hein.
Ouais, mais non, ça c'est pas vraiment un problème parce que vous étiez avec Georges Guédon, c'est un truc qui avait été planifié dès le début. Georges Guédon, en tant qu'ambassadeur, il a une valise diplomatique. Et ça avait été prévu. Hein.
D'accord. Parce que...
Donc, c'est vrai que j'aurais pu vous y repenser pour vous repiéger dessus. Mais en fait, au début, ça avait été le cas. C'est, il a une valise diplomatique, les armes sont dedans, il n'y a pas de problème. Donc, à posteriori, ça ne me gêne pas que je sois passé avec. Dans la fiction, ça ne me choque pas non plus.
D'accord. Pour te répondre, en fait, moi, maintenant, ce qui commence à me stresser, c'est mes mains. Est-ce que je vais arriver à les ramener à papa?
En un seul morceau,
non, mais,
tu vois.
Mais non, mais en fait, je pense que la vraie question, c'est est-ce que tu arriveras, toi, à revenir à papa?
En un seul morceau. Un truc aussi qui est intéressant quand même dans cette campagne, et puis on passe à la suite, c'est le fait que comme les personnages sont très crédibles, je trouve que les raisons pour lesquelles on se déplace et les façons dont justement on concerne notre stuff d'aventurier est très cohérent, tu vois.
Ouais.
Là, le fait de se balader avec un ambassadeur, typiquement, ça rend le truc super.
Le fait que tu sois, du coup, que t'aies pris son identité, ouais. On peut imaginer que t'as la valise diplomatique où on cache nos trucs qu'il faut pas...
C'est ça, ouais.
Je peux y mettre les diamants.
Dans la valise diplomatique. Non. je te laisse. Alors là, avec ton opium, tu vas. Je te le laisse, mais alors.
Je te signale que c'est toi qui devras me défendre si jamais j'ai des intérêts légaux à défendre. Hein.
Alors l'ego. tu viens de lâcher le mot-clé. on verra. Mais en tout cas, bon, comme tu me payes bien, on verra. Peut-être en échange de quelques diamants, je pourrais peut-être en transporter certains, mais pour toujours, on verra. La petite question que j'avais envie de vous poser en ouverture de ce podcast, c'est vos hypothèses, vos théories sur la suite.
Ah oui, ça c'est bien ça.
Flavie.
Moi je suis fan, vas-y.
Flavie, toi, à un moment donné, tu nous as dressé un tableau, t'as lâché la purée.
Tu sais quoi, ça ressemble à ces moments dans les émissions de télé-réalité, tu sais, où les mecs et les nanas vont tout seuls devant caméra faire les confidences ou je sais pas quoi.
Au confessionnal.
Ouais, le confessionnal, ouais.
Alors Fly.
Alors, moi, je pense que les gardiens, on va découvrir qu'ils gardent quelque chose de bien particulier. Et que c'est pas le Necronomicon. Moi, j'ai déjà plein d'idées hein, sur les pestiférés.
Et moi,
je pense
que c'est pas très rose non plus,
ouais.
Ce qu'on va découvrir sur...
Exactement, sur les gardiens. Qu'on va se retrouver seul contre tout ça.
Le premier arcane des cinq supplices que vous avez vu, c'était les gardiens qui l'avaient fait.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que
je trouve ça particulier. Prêts à faire le suivant, quoi.
Ouais, ouais.
C'est pour ça que je trouve ça particulier.
Voilà. Donc déjà, je sais pas trop ce qu'on va découvrir. Je pense que ça va être moche. Les pestiférés, je pense que ce qu'on va découvrir, ça va être dégueulasse et ça va pas être des pestiférés. Parce qu'en plus, il y a un spécialiste d'épidémiologie. En plus, moi, je suis une fan d'X-Files à la base. Moi, ça me fait penser à toute la recherche sur la variole avec les extraterrestres. Bon, imaginons que la peste soit un dérivé d'une maladie de grand ancien. On va découvrir des trucs moches pour faire muter des humains, aller dans le monde des ombres. Pourquoi pas essayer de créer un être qui peut être dans les deux mondes. Bref, voilà. Moi, je pense que tout le monde essaye de réveiller un grand ancien et je pense que l'océan noir n'essaye pas de réveiller le même grand ancien que les autres factions,
ça, c'est possible, ouais.
Mais que les deux grands anciens qui essayent d'être réveillés, en fait, c'est deux grands anciens qui peuvent pas se blairer et donc c'est la course entre les deux. Et je pense qu'on va se retrouver à devoir empêcher deux grands anciens de se réveiller.
D'accord, ouais.
Moi, j'ai pas pensé aussi loin, mais voilà.
Qu'est-ce que t'attends de la suite de l'histoire?
C'est compliqué à dire. J'attends qu'on trouve le tatoueur assez rapidement. Mais
t'en as marre de cet arc narratif-là?
Et puis j'ai du mal à savoir si. Enfin, c'est pas clair dans ma tête s'il faut qu'on trouve le tatoueur, qu'on aille attendre le train, qu'on. Enfin, il y a.
C'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'on doit faire.
Normalement, c'est clair en fait. Normalement, officiellement, c'est clair, c'est le tatoueur.
Il s'est passé très longtemps entre notre partie présente et celle-là.
Ouais,
la partie précédente, vous aviez quand même des choses encore plus en tête. Ça joue beaucoup là-dessus.
Je comprends. Enfin, moi, je comprends.
Oui, alors non,
dans cette question, on ne sait pas encore ce qu'on va faire de Saïfong Li.
Ouais.
Est-ce qu'on doit le tuer? Est-ce qu'on doit l'emprisonner?
Oui. Effectivement.
Est-ce qu'on doit le servir à la justice? Et à quelle justice? Est-ce que c'est la justice des communistes, aux japonais,
aux gardiens,
aux gardiens? Enfin, rien n'est réglé.
C'est, ah non, bien sûr.
Moi, ce que je vois, c'est des PJ qui courent après des indices, qui les mènent de péripétie en péripétie, mais pour aller où? Nulle part.
Après, en faisant un peu de méta, moi, ce que je vois venir, c'est le truc comme toujours classique dans ce genre de scénario, que ce soit dans les films ou ailleurs, c'est on va arriver vraiment au bord du gouffre, quoi. Soit on va voir le bout du nez du grand ancien, soit on va arriver à fermer juste à temps un quelconque portail. Ah oui, et puis ça nous a été dit aussi qu'on allait forcément aller voyager dans le monde des ombres.
Ouais, ça j'imagine un passage. Bon, alors moi, parmi les attentes, hein, j'attends vraiment un passage dans le monde du rêve ou dans le monde des ombres. Enfin, un passage à un changement dimensionnel, comme Cthulhu sait si bien le faire. Je veux dire, dans toutes les grandes campagnes, il y a toujours un moment où on change de dimension. Je veux dire, c'est vraiment. Et j'attends que
j'espère
ce soit
bien fait. J'espère sincèrement avoir encore assez de santé mentale pour pouvoir le faire.
Et j'ai tellement. Enfin, moi, franchement, j'ai vu avec l'opium, avec toute l'introduction sourde du monde des ombres et tout ça. Il y a moyen là aussi que ce soit une scène vraiment bien amenée, contrairement à d'autres campagnes dans lesquelles c'est souvent « Eh ben, il y a un PNJ qui est dans le monde du rêve, buvez la potion, endormez-vous et allez le voir !» Et puis quand vous revenez, c'est comme si le monde du rêve... Il y a certaines campagnes dans lesquelles le monde du rêve, c'est comme si c'était une maison, quoi.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
C'est ce que je veux dire dans un quartier, quoi. C'est-à-dire, il faut boire une fiole, tu passes dans le monde de Mario Bros, tu rentres dans le tuyau...
C'est surtout, là, depuis le début, quand ils rentrent dans le monde du rêve, il y a tout le principe du tatouage, de la porte, je pense que ça va être fantastique.
Là,
hein.
je pense que pour une fois,
fantastique.
Pour une fois, les mondes, les dimensions, les autres dimensions vont être bien amenées. Et j'attends de cette campagne qu'elle amène l'horreur d'une façon satisfaisante. C'est un défaut qu'on a retrouvé dans beaucoup de jeux d'horreur. On en avait parlé pour Innomable, mais on en a aussi énormément et abondamment parlé dans Cthulhu. C'est-à-dire le moment, on aime tous ce moment où la partie est fantastique. Et le moment où elle bascule dans l'horreur, il y a toujours un truc un peu raté.
Ouais, moi, je suis assez d'accord.
Et ben pour l'instant, je trouve que cette campagne réussit à chaque fois à amener l'horreur d'une façon non ridicule. Bon, le combat contre les profonds, je me suis mis en position de Final Fantasy VII, là, à un moment donné, était peut-être un petit peu raté. Mais si on prend la scène juste avant, le captif, très très bien amené.
Et moi, j'espère que je vais revoir le captif. Parce que si son sang permet de rentrer dans le monde des ombres, moi, je pense que lui, il peut passer d'un monde à l'autre. Et ben, si on peut le retrouver dans le monde des ombres, il y a quand même un moment où il regarde mon personnage hyper proche, genre toi, je vais me souvenir de toi.
Regarde, il n'a rien sur le visage, ni yeux, ni.
Non, mais il lui tend les mains, il lui fait des gestes dans sa direction, il semble danser vers elle. Enfin, il y a un vrai côté, il y a un côté très élégant, une invitation.
Il y a une communication.
Il y a une communication, exactement.
Et moi, j'ai très très envie de revivre ça. C'était génial, moi j'ai kiffé.
C'est vraiment des ailes de cuir, un masque de cuir, comme ça me fait penser au Délion dans je crois que ce sont les délions dans Shan Renaissance, cette créature.
Il y a un petit côté Guillermo del Toro, je trouve, dans ce film.
Ah bah oui, ouais. Ah bah complètement.
Oui, et puis moi qui adore Guillermo del Toro, on pouvait pas mieux tomber, ouais, je suis trop contente.
T'es déjà tombée amoureuse, il est presque Medfly ce monstre.
Oh, okay.
J'attends aussi beaucoup du personnage de Fortune Cookies.
Oui.
Moi, dès qu'on me met un personnage masqué, j'attends que ça pète, quoi. Je veux qu'à un moment donné, il enlève son masque.
Mais je pense que c'est vraiment lui qui nous donne des indices depuis le début.
Il est gentil, lui.
Ouais. Lui, il est de notre côté. Et lui, je pense qu'un de ces quatre, il va soulever son abat-jour.
Et vous allez perdre un des 100 points de San.
À mon avis, ouais.
Je suis pas sûre qu'il soit si gentil que ça. Enfin, je sais pas, moi je le trouve.
De toute façon, gentil dans Cthulhu, c'est moins méchant que les autres.
Non, mais oui, puis alors, moi, en fait, moi je trouve que dans ce personnage, il y a un côté très faille. Neutre, quoi, au sens où je gère le destin, mais ça peut être aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif, quoi.
Et assez normalement et assez logiquement, j'attends assez peu de choses de nos personnages, en fait. D'habitude, dans une campagne, on attend souvent des choses vis-à-vis des autres, tu sais, j'attends que notre relation évolue, j'attends qu'à un moment donné, on se retrouve opposé, j'attends, tu vois, comme dans Sens, où là, t'as des climax qui tournent vraiment autour des... Là, en fait, j'attends assez peu de choses de la... Je me sens vraiment, encore une fois, dans une campagne de Cthulhu, comme dans l'Orient Express,
oui, bien
assis
sûr.
Dans un wagon, sur un toboggan, et je me laisse couler.
Moi, j'espère juste qu'au dernier moment, je vais pas me retourner contre vous, genre dans le dernier combat ou un truc comme ça. Mais
t'as quand même un tatouage d'esclave. Hein.
Ouais, ça fait partie de la promesse pour moi. Le fait que t'aies un tatouage et que du coup, tu puisses potentiellement virer à l'ennemi.
Ouais, on verra.
Mais il y a une fortune cookies qui me laisse de l'espoir pour toi. Je pense qu'il y a un personnage qui est capable de te retirer ce tatouage.
L'écorcheur céleste, ouais. Guéri, chaud, guéri chair et peau. Oui, j'ai du mal à le lire parce que comme c'est une...
La chanteuse Cher et l'écrivain Alain Poe.
Je peux rien en ajouter. J'allais juste dire, oui, la police d'écriture des fois est un peu oui, mais non. Faut...
Oui, la police d'écriture des Fortune Cookies est pas terrible. Bon.
Mais c'est chouette, c'est très bien. Voilà, je vois bien l'idée, c'était pour faire un petit peu signe.
Moi, j'ai une question à vous poser. Remarques qu'on s'était faites entre nous, les parties d'avant, c'était que jouer avec les accents asiatiques, avec les noms asiatiques, on virait un peu au colonialiste, raciste, cliché. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas.
Pas du tout.
Pas du tout, ouais.
Pas du tout.
D'ailleurs, on n'a pas fait d'accent.
Moi, je l'ai fait. J'ai fait des accents japonais.
En fait, on a été confronté à une certaine forme d'impérialisme, en fait, de contre-impérialisme, ouais. Donc c'est compliqué. Parce que là, on n'est pas, en tant qu'Européens, on se retrouve soumis... on est vraiment des étrangers au sens où là, enfin moi, je me sens pas en position de supériorité par rapport à tout ce qui se passe là. Je me sens plutôt en mode, je suis un étranger au sens, je ne suis pas à ma place et je ferme ma gueule.
Je trouve que c'est intéressant de le dire en fait parce que c'est.
C'est vrai.
Oui. C'est une peur qu'on avait quand on a commencé le jeu de se dire ça va virer à la bouffonnerie, on va pas pouvoir continuer parce que ça va être naze quoi.
C'est toujours un sujet quand tu joues à Cthulhu parce que, enfin, pas tous les scénars, mais Cthulhu c'est un jeu qui s'inscrit. Déjà avec l'auteur,
dans la pensée de l'auteur,
une pensée raciste. Ça s'inscrit aussi dans une période qui était assez raciste, colonialiste, etc. Donc c'est vrai que ça fait partie des débats.
Je sais pas si c'est avéré ou pas, mais quand tu lis les nouvelles qui se passent à la Nouvelle-Orléans, des choses comme ça, ou dans l'Amérique profonde. T'as toujours une espèce de clivage entre l'homme blanc cultivé, qui a sa culture universitaire, qui arrive et puis il doit discuter avec les paysans du coin.
Ils sont peut-être superstitieux.
Ouais, superstitieux. C'est sous-entendu pour certains qui sont noirs.
Ça, c'est moins du... Ah oui, d'accord, ok.
ils sont toujours ridicules. Enfin, il y a un truc...
C'est moins du... j'allais dire, c'est moins du racisme que de la conviction que la rationalité occidentale est supérieure aux cultures...
T'es répondu toi-même, quoi.
Ouais, voilà, non, mais tu vois, c'est ça. Et du coup, là, c'est intéressant de voir... De voir que justement ce phénomène eh bien s'atténue et je trouve que et ça c'est quelque chose que j'ai observé aussi par exemple dans des fictions comme Shogun qui partent très mal de ce point de vue là.
Oh mon dieu, quelle horreur.
Oui mais non mais
et ensuite,
justement
c'est mieux.
Et parce que justement les traditions asiatiques sont tellement fortes en fait dans Shogun qu'elles font en fait du personnage un étranger au sens d'un personnage de justement dominé. Déraciné, et du coup, la supériorité mise en scène au départ, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être le blanc qui apprend. C'est glauque, en fait, au départ, on se dit, ça part mal, et en fait, non, ça se transforme.
C'est quoi Shogun?
Shogun, c'est une série en 4 épisodes, en 4 films, une vieille série, en fait, qui est très mal vieillie aujourd'hui, avec Richard Chamberlain en acteur principal, qui est l'histoire d'un navigateur qui se retrouve par hasard s'échouer sur une île. Cette île, c'est le Japon. Et il va découvrir en fait au fur et à mesure les us et coutumes du peuple avec toutes les intrigues politiques qui sévissent à ce moment-là.
Il va être cueilli par un seigneur de guerre.
Voilà, exactement.
Dont a priori.
Attends, il faut pas spoiler. Il y a une énorme chute à la fin du truc. C'est superbe. Et c'est vraiment une super série. Même si aujourd'hui elle a vieilli et tout, il y a plein de trucs. Il y a des côtés encore un peu très sexistes, hein, même aujourd'hui très sexistes. Après, on peut aussi se demander si la culture japonaise
de l'époque, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment une super série. Et je retrouve de l'ambiance de Shogun dans cette campagne. Bah, vraiment.
C'est cool.
Et très très bien. De la même manière, j'avais très peur parce qu'en lisant les premiers commentaires, je disais « Ah oui, vous jouez à ça !» J'avais eu des commentaires du genre « Ah ouais, ah bah vous allez voir, à la fin c'est tout pourri et tout. » Enfin, je sais pas, un truc « Ah bah j'ai hâte de vous voir au tel scénar. » Moi, pour l'instant, à part le scénar de l'avion où c'est vraiment chiant, j'ai trouvé globalement que la campagne se tenait. Elle est quasiment, pour moi, au niveau de l'Orient Express. En termes de façon dont la narration est amenée. Je trouve que l'Orient Express est peut-être plus cohérent dans la mesure où le toboggan est montré par les rails de l'Orient Express, etc. Il y a un vrai côté symbolique, machin. Le voyage est mieux fait. Mais une cohérence, une unité de temps qui est plus forte avec l'Orient Express qu'avec cette campagne. Mais bah, je trouve que... elle se hisse quand même au niveau des belles campagnes de Cthulhu pour l'instant.
Moi je la trouve très belle. Hein.
Pour l'instant, donc à voir, hein, on ne sait pas où
on
ça
a encore beaucoup de... Non, ce que j'aime bien, c'est qu'on est au troisième,
la troisième fois
où on joue.
Là, vous êtes... ça fait trois séances qu'on joue. On a fait les scénars solo du livre 1. On a fait le livre 2 qui est à Paris, le livre 3 qui est le voyage, et là on a fait grosso modo un tout petit poil plus que la moitié du livre 4.
Okay. Ouais. Et donc il nous reste
deux livres.
Et la promesse tient toujours, quoi.
Bah ouais.
Et ça c'est cool, ouais. Parce que bon, c'est pas que je vais critiquer les films qui ont été faits du Hobbit, mais la promesse à partir du film 2, tu te la colles sous le bras, hein. Et là, au moins, bah la promesse, c'est pas, elle retombe pas pour l'instant, et ça me fait plaisir, quoi. Ça fait du bien de voir cette promesse qui tient, et parce que c'est surtout ça, moi, qui me tient dans le jeu de rôle, c'est cette promesse qui va se passer des choses, et même dans les films et dans les livres que je lis, quoi.
Ouais. Et puis voilà, c'est une campagne qui est bien éditée. Là on est en plein dans le fétichisme de l'objet avec un crowdfunding qui a quand même fait pondre des objets complètement débiles du genre la sacoche en cuir dont on a pu se moquer abondamment et compagnie. C'est un jeu d'éditeur, donc nous on intervient en général plutôt pour défendre les indépendants, mais là on doit dire que ça pour l'instant donc en tant que critique très critique des éditeurs, on va dire, là cette fois-ci, elle nous fait fermer notre gueule.
Bah oui, mais en même temps, quand quelque chose est bien fait, faut le dire. Donc je sais pas si ce sera bien fait jusqu'au bout.
On n'est pas parti pris.
La deuxième partie de jeu qu'on a fait, je l'avais pas trouvé vraiment exceptionnel, hein, soyons honnêtes, mais là j'ai kiffé.
Voilà, c'est pour dire qu'on peut pas nous dire qu'on manque d'objectivité, qu'on est
des copains. De toute façon, je suis pas là pour dire que je suis objectif, je suis là pour dire si c'est un truc qui m'a plu ou pas.
On n'est pas des copains des auteurs, je veux dire, on s'en fout qu'on les connaît pas. Tu vois ce que je veux dire, on n'est pas là pour défendre la V7 de Cthulhu particulièrement. Donc je suis content, en tant que podcasteur, de pouvoir faire une critique positive d'un jeu d'éditeur. Ça me fait plaisir aussi. Ça montre aussi qu'on n'est pas non plus tout fermé et tout débile. C'est pas parce que c'est édité que c'est mal. Contrairement à ce que certains voudraient me faire dire parfois. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir aussi de goûter à une bonne campagne bien éditée avec... il y a plein d'objets, mais moi, je trouve que les objets, jusqu'à maintenant, ils servent. T'as parlé des super aides de jeu, le journal...
Alors, il y en a quelques-uns qui servent pas. On en reparlera à la fin.
D'accord, ok.
T'as pas mis, du coup
globalement, j'ai des affiches de cinéma de type, genre, Mei Fang, la personnage principale d'un film, tu vois. Ça sert à rien, ça intervient nulle part. C'est juste des caméos de tel PNJ, on le met dans une affiche de film.
Ce que je veux dire, c'est que là, on dit souvent, on pourrait croire que c'est du fétichisme de l'objet, Cthulhu, tu vois. Que c'est en fait, c'est un bel objet pour être un bel objet, cette campagne.
Mais non, pas pour
ça. Non. Moi, je trouve que le fait que les aides de jeu soient belles, ça fait partie intégrante, et on l'a bien souligné dans ce podcast, de l'ambiance. Donc là, on n'a pas affaire à du fétichisme de l'objet traditionnel. On voit que, justement, Sans Détour, à mon avis, est un éditeur qui est très malin de ce côté-là. Vraiment, là, c'est bien foutu. On va dire, c'est bien foutu, quoi. Et ça fait plaisir aussi de le dire. Voilà. Merci, Adrien.
Ouais,
j'ai un dernier truc. C'est de l'ordre du détail. L'ami qui m'a offert ça, qu'il avait reçu d'un fan.
Tu veux
creepy.
Que je mette la musique d'ambiance ?
Oui. Dont tu biperas le nom si jamais on le reprononce. En fait, elle a continué à recevoir des cadeaux de ce monsieur envahissant. Et donc, je crois qu'elle a reçu encore des campagnes de Cthulhu, donc peut-être que quand on aura fini celle-là, on aura de quoi commencer une autre. Je lui en parlerai.
C'est horrible cette affaire. Merci.
Voilà, donc arrêtez de suivre les jeunes filles qui ne veulent pas que vous les suiviez.
Arrêtez de leur envoyer des campagnes de Cthulhu.
C'est ça, voilà. Si elles ont dit non la première fois, acceptez le
non.
Non,
c'est non, quoi.
Qu'est-ce que c'est glauque cette affaire ?
Si c'est pas oui, c'est non, dans tous les cas.
C'est incroyable.
Oui, c'est ça.
En tout cas, voilà, beau cadeau. Par contre, on peut pas dire c'est un très beau cadeau. Du coup, nous, on l'a testé.
Il est bien.
C'est un super cadeau. Voilà. Merci Adrien encore une fois. Merci Flavie. Merci Natacha. À très bientôt. Portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Des bisous tentaculaires.
Salut.
Tentacule.